Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Merci beaucoup d'avoir lancé cet épisode. Je suis Régis Canon, c'est moi derrière Humeur Humoristique. Donc si tu découvres le podcast là maintenant, ben tu vas pouvoir découvrir une cinquantaine d'humoristes, dont l'exceptionnel Jason Brokers qui est dans cet épisode. Alors je voulais te dire quelques mots avant de commencer parce que dans cet épisode, je parle avec Jason de mon futur départ. En septembre, je prends l'avion pour Montréal où je vais m'installer pour quelques mois. Je prends une pause carrière ici en Belgique pour partir en PVT. Donc un PVT, c'est un permis vacances-travail qui me permet de rester maximum une année sur le territoire canadien et de pouvoir y travailler. Alors mon objectif, c'est de trouver du travail en journée pour financer mon séjour, mais surtout de faire un maximum de scènes là-bas. C'est vraiment l'objectif. On va essayer de l'atteindre. Les auditeurs réguliers, vous savez que vivre au Québec, ça a toujours été un rêve que j'ai jamais osé poursuivre jusque-là parce que j'ai peur, disons-le franchement. Ben voilà, c'est en cours. Je pars en septembre, j'ai mon avion, j'ai mon logement et il va bien falloir que je le fasse maintenant. Et bien sûr, j'ai vraiment très très hâte de le faire, même si ça m'angoisse beaucoup, je vous avoue, mais ça va être génial de pouvoir jouer au Québec, de pouvoir voir les humoristes québécois que j'aime tant. Ça va être génial. J'ai hâte de vous en parler parce que bien sûr, je compte continuer à faire le podcast parce que je prends toujours autant de plaisir à le faire parce que je serai au Québec et qu'il y a plein d'humoristes québécois que j'aimerais interviewer, mais je peux continuer aussi à le faire avec les humoristes français, belges, les interviewer quand eux viennent au Québec parce que bah comme Jason par exemple, ils adorent venir au Québec pour des raisons évidentes de c'est trop bien. Donc je compte bien continuer, je le ferai au maximum, je sais pas du tout ce que je vais faire là-bas. Alors d'ailleurs si tu veux aider le podcast, bah tu peux financer le podcast. Tu peux le faire soit via Patreon en payant chaque mois la somme de ton choix, soit en un paiement unique. Et le lien est en description du podcast et de l'épisode. Ça me permet de financer le podcast et de ne pas faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire financer moi-même le podcast et dépenser de l'argent à faire des interviews. Je vous donne un exemple très clair, par exemple pour aller enregistrer avec Jason Brokers, j'ai pris la voiture pour aller à Bruxelles, vous savez le prix de l'essence, j'ai dû prendre un parkmètre pour garer ma voiture, tout ça ce sont des frais qui s'ajoutent, aller voir les spectacles, et je passe beaucoup de temps à faire ces épisodes, pendant ce temps là je ne fais pas autre chose, et donc voilà, si vous voulez aider à financer le podcast, ben, c'est toujours très apprécié, je vous encourage à le faire. C'est cool. Alors, mais pour soutenir le podcast, tu peux également, c'est mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix, t'abonner, me rejoindre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc, tu tapes Régis Canon humoriste. Mais si tu tapes humeur humoristique, tu devrais normalement me trouver, si j'ai bien fait les choses. Et dans l'épisode avec Arun, j'avais invité les auditeurs à m'envoyer un mois si tu écoutais le podcast. Cette fois, je t'invite à partager le podcast en me taguant en story, par exemple sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, en indiquant le mot que Jason donne en fin de podcast, qui définit la communauté qui écoute ce podcast. C'est assez bien trouvé, j'aime encore bien. Vous pouvez même me donner votre avis. Tu peux donc me taguer en utilisant ce mot en story. Si tu as des questions par rapport à moi ou par rapport au podcast, tu peux également les poser. J'ai créé un CuriosCat. Un CuriosCat, c'est une plateforme qui te permet de poser des questions de façon anonyme. Mais si tu préfères, tu peux venir me poser ces questions sur Instagram. Si j'ai suffisamment de questions et que je trouve que les questions sont intéressantes, je ferai un épisode spécial dans lequel je réponds à toutes ces questions. Je pense que ça peut être intéressant. voilà. Si ça t'intéresse de poser des questions, viens les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, je te laisse avec Jason Brokers, qui, comme à son habitude, est passionnant. Il est drôle, il est bienveillant, et c'était un plaisir d'enregistrer avec lui. Donc, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste que j'adore, et il le sait parce que ça fait 2 ans que j'essaie de l'avoir. Il m'a dit qu'il voulait bien participer au podcast pour la première fois le 13 septembre 2020, quand il est venu à Bruxelles lors du What the Fun sans frontières. Ça y est, on a enfin trouvé un moment pour enregistrer. Je le reçois enfin avec un énorme plaisir. C'est bien sûr Jason Brokers. Comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va super. Merci beaucoup d'avoir trouvé un moment pour enregistrer.
On a mis le temps. Hein.
On a mis le temps, mais tu voyais bien que j'avais envie de t'avoir parce que je te relançais régulièrement.
Ouais, ouais, ouais.
Tu aurais pu me prendre pour clairement un gros stalker.
Non, ça va.
Ça va. Est-ce que toi, t'es consommateur de podcasts d'humour en général et de podcasts en général ?
Je dirais oui et non, j'en consomme, mais pas non plus à outrance. Hein. Bah, comme tout le monde, j'écoutais tous les Café Holo 7, les Dinguerie Room, j'écoutais aussi pas mal ce Sympa la vie de Paul de Chavannes et Ghislain Blick. Sinon, non, rien de plus, hein, je crois. Donc c'est vraiment les basiques, quoi.
D'accord. Mais est-ce que t'écoutes d'autres podcasts qui sont hors humour ou...
Ah, les tiens, j'en écoutais pas mal aussi.
C'est vrai ?
Ouais, j'en écoutais quelques-uns, ouais. Hors humour, non, pas tellement, finalement. C'est dommage parce que j'aime bien le format en plus podcast.
Ça te plairait, toi, de faire un podcast ou c'est pas...
Ouais, j'ai beaucoup pensé, mais tu sais, au final, tu te dis c'est pour faire un de plus et faire la même chose que les autres, ça sert à rien. Donc pour l'instant, c'est dans un petit coin de ma tête et peut-être qu'un jour ça sortira, mais pour l'instant, je vous laisse faire.
Ok. Ah, je suis content que tu aies écouté quelques épisodes.
Ouais, quand même. Hein.
Mais tu m'avais dit quand on s'était vu en 2020 que tu avais écouté l'épisode avec Adib.
Ouais, évidemment.
On a cette passion en commun.
Adib.
Ben c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais te recevoir, c'est que les deux passions qu'on a en commun, c'est bien sûr le stand-up et l'autre, c'est Adib Al-Khalidé. Donc pour ceux qui connaissent pas, Adib Al-Khalidé, c'est un humoriste québécois qui a un extrait qui est sur Humoriste du Monde, qui est le meilleur passage d'Humoriste du Monde, tous les pays confondus,
oui, oui.
Sans aucun souci. Ce sketch est incroyable, je vous conseille vivement. Mais je vous conseille vivement Adib Al-Khalidé en général. Moi, j'écoute tout ce qu'il fait. J'ai même écouté un podcast où il parle de hockey sur glace. Je connais rien du tout dans ce domaine-là. Et pourtant, j'ai écouté ça avec passion parce qu'il est passionnant, en fait.
C'est exactement ça. Je crois que c'est le mot qui le résume le mieux.
Est-ce que, toi, la passion que tu as pour le stand-up, parce que tu dis souvent dans les interviews que tu es surtout un fan de stand-up avant tout, est-ce que cette passion, elle est restée pareille ou elle a augmenté au fur et à mesure des années ?
Oh non, elle augmente parce que c'est ma vie, quoi. Le stand-up, ça occupe mes journées, ça occupe mes soirées, ça occupe un peu ma vie. Donc, je crois que si j'étais plus passionné, j'aurais arrêté. Hein. Mais là, jamais. Hein. Non, je consomme énormément. Moi, dès que j'ai du temps, je vais voir les spectacles de... En plus, c'est d'autant plus cool aujourd'hui parce qu'on se connaît tous. Donc aujourd'hui, quand je vois un spectacle, en général, je connais la personne, donc c'est encore plus cool. Mais dès que j'ai du temps, je vais voir des spectacles.
Et quel est le dernier spectacle qui t'a mis un coup, que tu t'es dit, ouais, ça, c'est vraiment fort?
Je pense que c'est Guillermo Guise. Hein. Je dis pas ça parce qu'on est en Belgique, hein, mais ouais. Le au suivant, c'est déjà le premier, je l'avais trouvé hyper bien. Mais le premier, c'est un premier. Le deuxième, il est plus lui, quoi. Il va plus chercher qui il est. Et hyper impressionnant, très drôle.
Bah, c'est pas la première fois que Guillermo Guise est cité dans le podcast.
Ouais, clairement. C'est pas étonnant.
Et son spectacle, c'est Verino aussi qui disait beaucoup de bien, qu'il avait vu son spectacle.
Ah, Verino, je l'ai vu il y a pas longtemps aussi d'ailleurs. Hyper bien. J'ai bien rigolé à Verino aussi.
Bah, c'est aussi un ancien invité du podcast. Guillermo, j'ai pas encore eu la chance de l'avoir. J'espère y arriver un jour. Mais vous voyez, ça prend des fois 2 ans pour.
Grave.
Mais du coup, oui, le spectacle de Guillermo, mais bon. Guillermo, de manière générale.
Très fort.
Si vous ne connaissez pas Guillermo, mais qu'est-ce que vous faites encore ? Coupez ce podcast, faites pause, allez écouter Guillermo, allez écouter Adib. C'est dingue tous les talents qu'il y a en ce moment.
Ouais.
Donc Jason Brokers, c'est pour ça qu'il est là dans le podcast. Parce qu'il est humble et il parle des autres, mais bien sûr, il y a Jason aussi. Oui, c'est le podcast du compliment. Il y aura des petits moments gênants comme ça où je vais te faire des compliments.
Non, t'inquiète, hein, vas-y. Bon, non, tu peux y aller. Hein. On peut faire que ça pendant une heure si tu veux.
Ok, bah alors c'est franchement quelle écriture. Et au moment où on enregistre, on est le 22 mars. Ce samedi 26 mars, tu joues la toute dernière de ton spectacle qui s'appelle 21e seconde. Ce spectacle, tu l'as joué au Musée de l'Homme, à l'Européen, à la Cigale, à la Scala. T'as fait 312 dates complètes et 65 dates en tournée en Belgique, en Suisse,
à Montréal, à New York et à Dubaï. Comment tu te sens pour la toute dernière dans quelques jours?
Alors, déjà, c'est pas exactement la toute dernière, c'est la toute dernière parisienne.
Ok.
Il reste encore après ça quelques dates de tournée, donc c'est pas officiellement la dernière du spectacle, mais c'est quand même quelque chose parce qu'à Paris, bah, c'est là où j'ai le plus joué. Hein. J'ai dû jouer 200 fois à Paris, je pense. Donc ça fait quand même un petit quelque chose. C'est un spectacle que j'ai appris à aimer. Puis je suis content que ce soit la fin quand même.
Content que ce soit la fin, oui.
Ouais, bah oui. Oui, ça y est, parce que bah il y a un moment, faut passer à autre chose. On a passé des bons moments avec ce spectacle. Puis maintenant, je suis pressé d'écrire un nouveau.
Okay.
Là, je suis hyper pressé de n'avoir, enfin, d'être devant une feuille blanche et de me dire, vas-y, je vais raconter quoi.
Mais t'as déjà des idées ou
pas du tout, pas du tout. Non, mais ça va venir. Moi, je suis pas quelqu'un qui force l'écriture. Ça vient quand ça vient.
Okay.
Et je m'en fais pas quoi. Je m'en fais pas du tout. Faut pas forcer.
Et il a l'air de croire en ce qu'il dit parce que il l'a dit avec assurance et moi je serais en panique si j'étais lui. Mais...
Oui, parce que puis après si ça prend un peu de temps, ça prendra un peu de temps, mais je vais pas forcer m'inventer des choses parce que quand tu t'inventes des choses à dire, bah ça fait perdre un peu de la sincérité. Alors que si tu laisses les choses venir, bah ça va plus être des choses que tu penses réellement, tu vois. Parce que si tu te mets face à ton ordinateur ou une feuille ou tout seul comme ça, tu dis bon allez faut que je trouve des trucs, bah tu vas trouver hein, mais tu vas chercher.
Alors le titre du spectacle s'appelle donc 21e seconde.
Mm-hmm.
Tu expliques que c'est parce qu'en général il faut 20 secondes aux gens pour se faire un avis sur une personne.
Mm-hmm.
Et se dire est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas. Tu dis est-ce qu'on pourrait pas commencer à la 21e seconde sans se juger, d'où
exactement.
Le titre du spectacle. Mais de quoi parle le spectacle en général?
Alors en gros, bah, je vais te faire les gros blocs du spectacle. Hein.
Ouais.
T'as un premier bloc sur l'argent, les crevards. Donc là, t'as un bon 10-15 minutes quand même. Ensuite, t'as une deuxième partie sur ma fille, les enfants. Ensuite, je parle du divorce. Et en dernier lieu, je parle des contrôles de police et de... Ouais, c'est un peu ça.
Et est-ce que ce spectacle, tu l'as capté ou tu as l'intention de le capter?
Capté pas encore, mais c'est en projet pour la fin d'année, je pense, à l'automne ou début d'hiver. Donc ça serait octobre, novembre, un truc comme ça.
Parce que je suis
c'est l'idée, ouais.
Je suis un grand fan de captation.
Ah ouais.
Moi, je milite pour que tout le monde capte son spectacle. Je suis limite un petit peu énervé quand je sais qu'il y a un spectacle qui a pas été capté. Je me fais mais.
Non, mais faut le capter au bon moment aussi, tu vois.
Oui. Mais du coup, il y a des spectacles. Je me dis, mais on peut pas le voir en fait.
Ouais, mais
le revoir, tu vois.
Bah oui, le revoir, oui, mais le voir. Enfin, moi, tu sais, dès que je mets une vidéo sur Internet, ça disparaît du spectacle.
Mm-hmm.
Moi, quand tu as mon spectacle, il y a c'est que des choses que t'auras jamais vues. Donc du coup, si jamais je te le capte et que je te le donne tout de suite, après moi j'ai plus rien, tu vois.
Oui, bien sûr.
Donc j'attends la fin, quoi.
C'est qu'il y a des shows, par exemple, je vais te prendre un exemple, il y a le spectacle de Virginie Fortin, Du bruit dans le cosmos. Elle a sorti maintenant un nouveau spectacle. Et ben, je pense qu'il n'y a pas de captation, en tout cas, qui n'existe pas, en tout cas pour le moment, peut-être qu'elle va en sortir un plus tard.
Alors là, oui, là je comprends que ce soit. Oui, là,
et moi je l'ai vu, le spectacle, donc je suis content, je l'ai vu, j'ai les souvenirs, mais j'aurais envie de le regarder.
Ouais, je comprends.
20 fois. Moi, les spectacles que j'aime bien, je les regarde en boucle plusieurs fois. Et je sais pas, le spectacle Pulsion de Kian, je l'ai regardé 8 fois, 9 fois cette année. Et on est en mars. Non, quand même pas.
Non, là sur ça, je suis d'accord avec toi, ouais.
Ok, ouais. Bon, on est d'accord.
Ouais, alors, ouais.
J'ai hâte de voir une captation. En plus, si c'est aussi beau que les vidéos et les extraits que tu postes, je trouve qu'il y a vraiment un truc vraiment beau. Je t'avais envoyé un message pour le dire que la pub pour le Trianon, je trouvais ça super classe.
Bah là, ouais, non, mais de toute façon, on va faire un peu. On va rester dans cette. Bah, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Hein. Donc, on va faire. Enfin, la ligne entre les directrices de la captation, ça va être sobre, simple et comme ce qu'on a. Puis en plus, à la réalisation, ça va être Adib Alkhalidé et Panayotis qui vont encore réaliser le spectacle. Donc ça va. Je pense que ça devrait être plutôt beau.
Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien.
Ouais.
Belle équipe. Alors, tant qu'on parle de ton actualité, j'ai également envie d'aborder, c'est la série Drôle de Fanny Herrero, pour laquelle t'as coaché les acteurs et aidé à écrire les scènes de stand-up.
Mm-hmm.
Enfin, il y a toi, mais aussi Shirley Soignon, Thomas Wiesel, Fanny Ruet et Marina Rollman aussi. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'accepter ce projet?
J'avais pas envie au début. En fait, quand Fanny m'a contacté, c'était... je sais plus trop quand exactement, bref. Elle m'envoie un message pour me demander si on pouvait discuter de ça, donc j'ai accepté. On a discuté. Et au début, comme je lui ai dit, hein, que j'étais un peu sceptique à l'idée de laisser d'autres parler du stand-up, d'autres gens qui ne connaissent pas le stand-up en parler. Donc j'étais un peu réticent et sceptique à l'idée. Et au final, Fanny Herrero et son équipe, c'est des gens qui sont très pros, très carrés, et ils ont été hyper rassurants et ils ont voulu et ils ont fait d'ailleurs, ils ont bien enfin ils ont voulu faire vrai. Nous, ils passaient à chaque fois dans chaque étape de leur processus d'écriture, on nous demandait est-ce que ça c'est crédible, est-ce que ça c'est pas trop, est-ce que ça on y croit, est-ce que ça ça pourrait se passer dans la vraie vie. Et donc du coup ils ont vraiment essayé de coller à la réalité et finalement c'est ça qui m'a apaisé, qui m'a dit OK, c'est bon. C'est quand même entre de bonnes mains.
J'ai pas encore eu le temps de la regarder. Je t'avoue que j'étais très occupé à faire toutes mes recherches sur ta personne. mais bien sûr, je vais regarder. Tout me parle.
Tu me diras ce que t'en penses.
Avec plaisir. Mais j'ai entendu d'ailleurs qu'ils avaient créé un comedy club dans le studio qui était tellement beau que vous aviez tellement envie de jouer dessus que vous l'avez fait. Vous avez fait un spectacle devant, devant toute l'équipe. Comment ça s'est passé?
C'était trop bien. Mais franchement, je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Ils ont créé un comedy club, donc dans un hangar, tu sais, dans un studio d'enregistrement, et t'as l'impression que c'est un vrai comedy club. Mais je me foutais de la gueule de Charlet au tournage, et tu te rends compte que c'est mieux que le Barbès. Le Barbès, c'est le comedy club de Charlet. Et je te rends compte que le faux comedy club est mieux que ton vrai comedy club. Mais ouais, non, vraiment. Puis donc, du coup, on a joué là-bas devant l'équipe. En plus, c'était cool parce que c'était en plein confinement. On n'avait pas joué depuis des semaines, et ça nous a. Putain, c'était tellement bien. C'était vraiment trop bien.
Bah j'ai vraiment hâte de voir parce que je trouve que déjà le Barbès c'est vachement cool.
Ouais, grave. Ah oui, non, mais c'était une blague. On aime bien le Barbès. Hein.
Bah j'ai vraiment hâte de voir la série. Tout est fait pour que je l'aime bien. D'ailleurs, je me suis dit ce qui est gage de qualité, c'est que les personnes qu'elle a choisies pour la série, c'est que des gens qui ont bien sûr beaucoup de talent, mais qui ont plusieurs visions différentes. Et donc ça doit donner quelque chose d'assez représentatif de ce qui est vraiment le stand-up. Donc j'ai hâte de voir ça, quoi.
Eh ben écoute, hein, tu me diras ce que t'en penses. Hein.
Ben ouais, bien sûr. Alors je pense qu'on est revenu sur ton actualité. Mm-hmm. Alors dans le podcast, moi j'aime remonter le temps avec mon invité et revenir au tout début. Donc toi t'es né le 5 septembre 1986, qui a vécu une enfance heureuse, qui est rare pour les stand-uppers.
Ouais.
Les traumas d'enfance qui reviennent. Mais t'as grandi à Rémy-sur-Seine.
Romilly-sur-Seine,
c'est ça que je ne trouvais pas. Ouais. J'entendais
mais
ça.
Mais c'est encore pire que ça, j'ai grandi à Anglure, c'est encore... tout petit village juste à côté de Romilly-sur-Seine.
Ok. Ouais.
Donc moi j'ai passé ma vie dans les rivières et, et dans les bois à faire des cabanes.
D'où l'enfance heureuse.
D'où l'enfance hyper heureuse. Ouais, c'est le petit village de campagne, quoi. Donc on jouait au foot et puis on allait faire des cabanes dans les bois, puis on allait à la pêche et puis on se baignait. Enfin c'était vraiment ça, quoi.
Et est-ce que enfant t'étais déjà quelqu'un de drôle?
Enfant non. J'étais très consciencieux, très sérieux, je travaillais bien à l'école, j'étais un petit garçon vraiment très très sage. Jusqu'à toute l'école primaire. Je sais pas si vous dites primaire, sinon...
Si.
Donc toute l'école primaire, j'étais vraiment très sage, premier de la classe, hyper bon élève, je faisais bien mes devoirs, j'étais très comme ça.
Okay.
Ensuite au collège, ça c'est un peu... J'ai toujours eu des bonnes notes, hein, mais c'est là que j'ai commencé à être marrant. Parce que c'est la préadolescence, donc tu commences un peu à te découvrir, à t'affirmer. Et moi, ça a été les blagues. Hein. J'ai été très drôle. Putain, c'est tellement prétentieux de dire ça. Mais j'étais le gars marrant, quoi, tu vois. J'ai toujours été le gars marrant dans ma classe, quoi. Du collège jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Et est-ce que tes parents et tes frères et sœurs sont des gens drôles?
Non. Mon père en vrai un peu. Bah mon père en vrai, c'est surtout quand je le vois avec ses cousins, avec ses frères, tu vois, où je dis, oh, il est marrant en fait. Mais dans la vie de tous les jours, je sais pas, il me fait pas rire. Mais sinon, mes frères et sœurs... Mon frère, il est marrant quand même. J'ai un frère et quatre sœurs. Alors, de mes sœurs, il y en a une qui, elle est rigolote, même si, vas-y, elle fait mal à la tête. Mais non, c'est moi le marrant de la famille, quoi.
Ok.
C'est moi le plus drôle de la famille.
Ça fait plaisir. Ouais. Moi, je suis aussi de famille nombreuse.
Ouais,
j'ai,
ah ouais.
J'ai trois frères et une sœur.
Donc, ça fait... Vous êtes cinq?
On est cinq. Ok. On est un de moins... que toi.
Ouais. Et donc
j'espère être le comique de la famille. Eux ne trouvent pas du tout, ils disent c'est le chiant de la famille. Ben, moi contrairement à toi, moi je suis très proche de ma sœur, mais très peu de mes frères par exemple. Enfin, j'ai deux grands frères, je suis celui du milieu.
Ok.
Le meilleur en fait. C'est une courbe qui monte et qui redescend. Ça fera plaisir à ma sœur qui est la dernière. Mais toi c'était vraiment toute une bonne ambiance à la maison.
Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Franchement, on a grandi. Puis c'est aussi peut-être beaucoup la très faible différence d'âge qui fait ça. C'est-à-dire que nous, on a un an d'écart à chaque fois.
Ok, nous c'est deux.
Ouais, nous c'est un an. Donc on est vraiment hyper proches. Bon, après, j'ai une petite sœur qui est beaucoup plus jeune que nous tous, donc rien à voir. Mais nous cinq, les cinq grands, on est vraiment. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment hyper proches. Le groupe WhatsApp, tous les jours quoi. Ouais, on se parle tous les jours, on rigole beaucoup. Enfin, on est vraiment hyper proches.
Ok. Cool, ça. Et est-ce que enfant, t'allais voir des spectacles d'humour? Vous regardiez beaucoup des humoristes à la télé?
Pas du tout, du tout. Déjà, on regardait très peu la télé. On regardait vraiment très très peu la télé. Nous, on jouait beaucoup entre nous. C'est-à-dire qu'on avait pas beaucoup de jouets à la maison. Donc c'était vraiment, je vois le papa, la maman, la maîtresse, le policier, machin. Mais c'était très de l'imaginatif, quoi, tu vois. Très de, beaucoup dans l'imaginaire, parce que bon, on n'avait pas de jouets. Donc fallait bien se débrouiller. Et c'était cool, hein, franchement, c'était cool. Hein. Ça nous a sûrement permis de développer certains trucs. Mais la télé, franchement, très peu. Hein. J'ai pas le souvenir qu'on regardait beaucoup la télé. On a, allez, mercredi matin, on regardait un peu les dessins animés. J'avais le droit de regarder une mi-temps de la Ligue des Champions. Et après, fallait aller dormir. Mais sinon, non, j'ai jamais... on regardait pas de films, pas trop de... Ouais, non. Télé, non, pas du tout. Et donc, les spectacles, encore moins, quoi. Okay. J'ai découvert les spectacles très, très, très... Je crois que le premier que j'ai eu de ma vie, ça va être le premier de Jamel, je pense. Jamel en scène, un truc comme ça.
Ouais, je pense que c'est ça.
Je crois que c'est ça. C'était...
Ouais.
Bah, c'est le premier que j'ai vu de ma vie, quoi, tu vois. J'ai dû le voir 40 milliards de fois. On était au collège, je m'en rappelle, et c'était un des potes du collège qui nous l'avait prêté. C'était incroyable, enfin, c'était...
Est-ce que là, en voyant ça, tu te disais, j'ai envie de faire ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non. Enfin, je pensais même pas que c'était possible, parce que, en fait, quand tu grandis comme ça dans un petit village, et après, on a déménagé dans une petite ville, mais ça restait une petite ville, tu sais, c'est loin de tout ça. Donc, pour nous, c'est juste... Enfin, c'est... Ça rentre même pas dans notre cerveau que c'est possible de faire ça. Pour nous, c'est la télé, quoi. Pour nous, c'est les gens de la télé. Ça n'existe pas dans notre vie. Donc, non, non, à aucun moment, ça me fascinait. Je trouvais ça extraordinaire, mais c'était absolument pas un plan ou pas du tout, du tout, du tout. C'était même pas possible pour moi de ne serait-ce que d'y penser, quoi, tu vois.
Moi, je le dis souvent dans le podcast. Moi, c'est pas un truc de... Je suis d'un petit village, je suis loin et tout. C'est plus, moi, je me dis, mais je suis pas capable de faire ça. Mais après, tu voyais Jamel. Moi, c'est des spectacles 100% de boost que j'ai regardé tellement de fois que le DVD est rayé à un certain passage que je complète le passage moi-même. Mais je me disais juste, c'est Jamel, c'est un showman. Après, il y avait Gad Elmaleh, c'était pareil. Ah, c'était, ouais. On chante, on danse, on fait le show. Et moi, je me disais, mais je peux pas faire ça. C'est destiné à une certaine élite de personnes. Jamais je pourrais faire ça. C'est plus tard que j'ai vu d'autres humoristes plus calmes, plus posés. Et je me suis dit, ah, là, je me dis ça, c'est peut-être un peu plus possible. Et je sais que t'as fait pas mal de foot aussi.
Ouais.
Mais est-ce que le théâtre ou l'improvisation, ça t'a attiré à un moment donné? Ou la scène en général? Mais pas du tout.
Non, jamais.
Ah, c'est marrant.
Non, jamais. Bah, quand on faisait les trucs de théâtre à l'école primaire, j'aimais bien. Hein. Mm-hmm. Franchement, c'est des trucs que j'aimais beaucoup. Mais encore une fois, c'était tellement impossible que ça rentrait même pas dans ton cerveau, en fait. Pour moi, c'est dans un monde à part, quoi. C'était pas dans le monde dans lequel je vivais, moi, tu vois. Donc c'était pas une... Non, jamais, jamais, jamais.
Et comme tu faisais beaucoup de foot, est-ce que c'était dans une volonté de devenir footballeur ou...
Oh bah oui. Non, en vrai, j'ai très vite su que ça allait pas se faire. Hein. J'étais très pragmatique. Je jouais bien, hein. Franchement, quand j'étais plus jeune, il y a eu des petits contacts, il y a eu des petites choses. Mais puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, moi par exemple, quand j'étais plus jeune, il y a un centre de formation qui a voulu... Et j'avais quoi? J'avais 12 ans, tu vois. Et c'était pour mon père, c'était, bah non, à 12 ans, mon fils, il va jamais partir de la maison. Donc ça a très vite été balayé. Et puis ça n'a pas été plus loin. Et encore, hein, c'était même pas une vraie proposition, c'était juste des débuts de conversation. Mmh. Et mon père a très vite dit, mon fils, il partira pas de la maison à 12 ans. Parce que pour lui, le foot, c'était juste un jeu, quoi, tu vois. Il n'y avait pas moyen d'en faire sa vie. Et aujourd'hui, je crois que les gens se rendent beaucoup plus compte de ce que c'est. Je dis pas que ça aurait changé, hein, mais que ça aurait changé quoi que ce soit pour moi. Mais donc moi, très vite, ça a été juste un plaisir, quoi, tu vois. J'ai toujours joué au foot par plaisir. Puis je suis content que ce soit comme ça aussi. Parce que, moi, je me souviens quand on était petit, c'était on prenait le ballon puis on jouait au foot toute la journée. On jouait que quand on voyait plus rien parce qu'il faisait nuit, quoi, tu vois. Et c'était ça pendant des années, des années, des années. Hein. Mais vraiment, quand je dis des années, ça a été... Moi, j'ai joué au foot toute ma vie, quoi. Même quand on était plus jeune. C'est un peu plus âgé qu'on était, je sais pas, 18, 19, 20 ans, qu'elles étaient allées en boîte de nuit. Nous, ce qu'on faisait, c'est que le week-end, on attendait que... Il y avait un parking, en fait, le seul endroit qui était éclairé dans la ville. Et on attendait que toutes les voitures partent, parce qu'il y avait des restos autour, machin. Et c'était le seul endroit qui était éclairé. Donc vers minuit, 1h du matin, quand il n'y avait plus de voiture, bah, nous, on mettait les bancs, puis on jouait au foot jusqu'à 3, 4 heures du matin, tu vois.
Comment?
Et comme c'était en plein centre-ville, t'as les gens qui allaient en boîte, machin, de notre âge, tu vois, qui nous voyaient, qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on joue au foot. Okay. Et on n'a jamais été dans le délire boîte de nuit, machin. Non.
Mais moi, j'ai fait mon voyage de réto la dernière année du secondaire, du lycée pour la France. On a été à l'Orée des Mares pour en mode boîte de nuit et tout ça le soir. Mais mon meilleur souvenir de ces jours, c'est en journée, on allait sur un terrain de foot synthétique et on jouait au foot. Et j'ai beaucoup plus aimé ça que le...
Ah, tu joues aussi?
Bah, je joue en très très amateur. J'ai jamais fait dans un club et tout ça. D'ailleurs, c'est limite même un regret d'enfance de... Mais j'aurais tellement dû jouer plus au foot. J'étais pas beaucoup sport quand j'étais plus jeune et maintenant j'adore ça. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas passé mes journées à faire ça, quoi?
Ouais.
Moi, c'est mon petit regret d'enfant. Si je devais remonter dans le temps, je me donnerais un ballon, je ferais, allez, joue. Trouve-toi des copains, tu peux le faire.
Ouais.
Mais de jouer plus, quoi. Je me rappelle qu'à l'école, c'est vite devenu un peu. un peu genre ringard, ceux qui jouent au foot, c'est un petit...
Ah ouais, moi j'ai pas arrêté. Alors là, mais... Ah oui, parce qu'après, oui, t'as ceux qui traînent avec les meufs, machin. Ah, voilà. On s'en foutait, on jouait avec la balle en mousse et vas-y.
C'est ça.
Et on rentrait en classe, on transpirait dans tous les... Bon, on s'en foutait. Ah non, moi c'était le foot avant tout.
Je me suis toujours trop soucié des autres. Mm-hmm. Enfin, du regard des autres, bah, toujours. Hein. Je sais pas pourquoi j'utilise. je fais genre, parce que je suis dans un podcast, mais... C'est vraiment un truc qui... Enfin, trop me soucier de la vie des autres, qu'il faut que je progresse. Mais je suis pas en thérapie, je reviens...
Tout va bien se passer, d'accord.
Je vais te donner de l'argent à la fin du podcast. Alors, ensuite, toi qui étais plutôt bon à l'école, mais tu savais pas ce que tu voulais faire dans la vie, tu obtiens ton bac, et puis tu voulais arrêter les études, mais bon, pour faire plaisir à ta mère, t'as fait quand même 2 ans d'études.
Ouais.
En école de commerce, à ce moment-là?
Non, d'abord, c'est à l'IUT. C'est genre d'université, quoi. Moi, je crois que c'est IUT, ça veut dire université, je sais pas quoi. Bref, à l'IUT, donc je fais bac plus 2. Et là, je m'arrête parce que je n'aime pas l'école. Mais depuis un bon moment déjà. Mais depuis longtemps, enfin, moi, je me rappelle qu'en terminale, j'allais jamais en cours. Le bac, je sais même pas comment je l'ai eu. Genre, j'ai révisé les 2 dernières semaines, mais j'allais jamais en cours. Franchement, j'allais jamais. Je m'en foutais de l'école. Donc, mais quand même, comme j'avais des facilités, comme disaient les profs, j'ai quand même continué. Bac plus 2. Et ensuite, j'ai arrêté. Puis là, je travaille 3 ans à peu près.
Dans une banque?
J'ai fini à la banque, ouais, mais entre-temps, j'ai fait 1 milliard de choses. Laisse tomber, je démissionnais tout le temps. Il y a des jobs que j'ai fait un jour, il y en a que j'ai fait 4 jours, il y en a une semaine, il y en a 1 mois, il y en a 3 mois. Mais je crois que mon record, ça doit être 8 mois, quoi. J'ai jamais tenu plus longtemps dans un job.
Ah, c'est marrant, j'ai jamais démissionné, par exemple.
Ah ouais, bah alors ça, c'était...
Un truc que je connais pas, moi, c'est...
Ah, mon gars, combien de fois j'ai démissionné? Mais c'était fabuleux. Ah ouais, mais en fait, dès que j'arrive pas à aller reculons quelque part, dès que j'avais plus envie, je dis, bah, j'ai plus envie, j'arrête.
Okay, ouais.
Parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie.
Mais après, t'as même repris des études.
Ouais.
Ça a surpris tout le monde parce que t'avais un CDI, que t'en as eu plusieurs.
Ouais.
Que comme tu dis, tu démissionnais, mais donc t'as repris des études, toi qui n'aimais pas ça, donc ça a un peu surpris tout le monde. T'as eu ton diplôme, puis encore une fois, t'as réenchaîné les CDI, les différents boulots.
Ouais. Mais là, pour le coup, j'ai repris parce que j'en avais marre de travailler, de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc je me suis dit, bah vas-y, il faut bien faire quelque chose. Vas-y, on va essayer l'école. Hein. Et je travaille quand même à côté, j'ai des petits jobs étudiants à côté. Et puis, ouais, donc j'ai repris bon, 1 an de fac. Donc à la fac, en vrai, tu vas pas vraiment en cours. T'allais juste aux examens et puis c'était facile. Donc j'ai validé assez facilement. Et après 2 ans d'école de commerce, où, ouais, en vrai, c'est plutôt tranquille. Hein. C'est pas de la folie, quoi. C'est beaucoup de travail en groupe. Puis bon, je me mettais dans des bons groupes, quoi. Donc, je foutais pas grand-chose, en vrai. J'ai jamais foutu grand-chose à l'école.
Mais est-ce que
j'arrive à m'en sortir, mais sans rien foutre, quoi.
Mais est-ce que ces études-là, elles t'ont quand même apporté quelque chose que tu gardes dans ta vie, ou...
Sûrement, mais je le sais pas, quoi.
Mais après ces études-là, donc tu travailles, tu gagnes même vraiment bien ta vie.
Ouais, c'était cool, ouais.
Ouais, à un moment donné, tu travaillais avec la pharmacie.
Ouais, c'était mon dernier job, ça.
Ouais.
J'étais délégué commercial dans un laboratoire pour des compléments alimentaires. Et en vrai, c'était cool, hein. C'était cool, mais ça m'a saoulé. En fait, ce qui m'embêtait, c'est de ne pas réfléchir, quoi, tu vois. Tu sais, t'es pas du tout stimulé, tu fais ce que t'as à faire. Puis y a pas de surprise, quoi, tu fais ce que t'as à faire. Et tu sais que ça va se passer comme ça. Et y a rien de fou, quoi, tu vois. T'es pas stimulé, y a rien d'excitant, y a rien de... Alors ouais, c'était cool, financièrement c'était sympathique. Mais tu te fais chier, quoi, tu vois. J'avais besoin d'être stimulé intellectuellement, de réfléchir, d'avoir un sentiment d'excitation, de challenge, de quelque chose, quoi. Tu vois, là y avait rien, quoi. Tu faisais ton chiffre, ouais, c'était pas compliqué. Puis même pour faire le chiffre, hein, je veux dire, y a rien de fou, quoi. Tu vends tu connais ton produit, tu le vends et voilà, fin de l'histoire, quoi.
Mais comment tu vivais ça, de ne pas trouver ce que tu voulais faire et que tout ça, c'était quelque chose qui t'éprimait, ou tu cherchais ce que tu voulais faire?
Non, j'ai jamais été un gars déprimé, moi. Non, je dis juste, bon, ça me saoule, quoi. Ça me saoulait, puis je me disais toujours, bah vas-y, je vais trouver un truc qui me plaît. Et en fait, je tâtonnais, quoi. J'ai toujours su que j'allais finir par trouver un truc qui m'intéresse. Je savais juste pas quoi, donc je démissionnais, je cherchais autre chose, jusqu'à trouver, quoi. Mais de toute façon, j'aurais pas pu continuer à faire un truc qui me plaisait pas. C'était impossible, c'est pas dans mon tempérament de... D'ailleurs, les gens nous disent, mais c'est courageux ce que vous faites. Non, pour moi, ce qui est courageux, c'est de faire tous les jours un job que t'as pas envie de faire. Mais quel courage il faut? Un courage que j'ai pas du tout. Hein. Impossible, c'est impossible. Moi, j'ai besoin de... Tu sais, après, c'est aussi peut-être la facilité, hein, mais enfin, c'est facile de faire un truc que t'aimes, quoi, tu vois.
Plus facile.
Bah ouais.
Ça, c'est sûr. Moi, j'ai donné cours en secondaire, donc en collège et lycée. Mmh. Et ça, j'ai détesté. Mais le truc qui était le plus dur, c'était vraiment ce sentiment d'inutilité, quoi. Il y a vraiment, je me rappelle vraiment d'un moment où je suis en classe et je me dis, mais en fait, le porte-manteau en classe est plus utile que moi.
Ah ouais.
Parce qu'il tient les manteaux. Oui, il a une utilité, clairement, et je le vois, et je me dis, putain, je sers vraiment à rien. Et je me suis dit, mais en fait, toute cette année scolaire, si j'étais pas là, aucune différence. Et ça, c'était dur, c'est pour ça que j'ai complètement arrêté le secondaire. Je donne cours le soir à des adultes, ce qui est stupide pour faire du stand-up, mais qui permet de rester en santé mentale plus ou moins correct. Mm-hmm. Mais je comprends ce truc de faire quelque chose que t'as pas envie de faire, c'est
une horreur.
C'est une horreur. Et même si c'est des fois pour. Si, comme tu dis, tu gagnais bien ta vie, tu étais dans des bonnes conditions, au fur et à mesure, tu trouvais un truc de plus en plus stable et correct, et... mais même ça, il manquait quelque chose.
Ah non, puis l'argent, c'est pas. Enfin, on s'en fout, hein, je m'en foutais. Hein. J'ai jamais eu peur d'être pauvre, hein. J'ai été pauvre très longtemps, pas peur. Hein.
Je connais.
Franchement, s'il y avait un truc dont j'ai pas peur, c'est la pauvreté, ça me. Vas-y, on est pauvre. Hein. Ça empêche pas d'être heureux. Hein.
Après, en 2011, tu vas voir un plateau de stand-up avec des potes au Bordel Club. Mmh. T'adores le spectacle.
Ouais.
Est-ce que c'était la première fois que tu venais voir un plateau ?
Ouais. Au Bordel, c'est la première fois, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans le plateau ?
Je trouvais ça fou de juste... En fait, c'est un monde que je connaissais pas, en fait. J'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, c'est génial. Enfin, tu prends ça dans la gueule, tu dis, c'est fou, quoi. C'est vraiment une grosse claque. J'ai même pas de mots tellement c'était. Je sais pas, tu découvres un espèce de monde parallèle, tu savais même pas que ça existait. Ouais, en plus, c'était la bande à l'époque de Kian, justement, de Kian Kojandi, on en parlait tout à l'heure. C'était sa bande avec lui, Navo. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Seb Mélien.
Kairon ?
Ouais, peut-être qu'il y avait Kairon aussi. Alexandre Barbe, je m'en rappelle. Je sais même pas ce qu'il fait Alexandre Barbe maintenant. Mais à l'époque, c'était fou. Et puis voilà, donc ça m'avait mis une grosse claque et j'avais trouvé ça fou.
Et après la scène, t'envoies un message à Seb Mélien, qui était sur le plateau, pour savoir comment on fait pour faire ce métier. À l'époque, t'as 25 ans, il te dit, c'est trop tard pour toi. Mais il ajoute quand même après,
ouais. Si tu veux. C'est un peu polémique, ça. Non, parce qu'en fait, j'avais raconté ça dans un podcast, et Seb, après, il m'envoie un message en me disant, il a même le pauvre, il a été recherché dans nos anciennes conversations. Il a dit, regarde, je t'avais dit. Parce que moi, dans mon souvenir, Seb, il m'avait dit, non, t'es trop vieux, laisse tomber. Et en fait, effectivement, il m'avait rajouté, mais si vraiment t'as envie, tu peux essayer. Et donc, du coup, lui, j'avais raconté que la première partie, parce que je me souvenais que de ça, hein, c'était pas pour raconter des bêtises. Et il se sentait un peu coupable. Mais du coup, quand il m'a dit ça, en fait, moi, je me suis dit, écoute, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard, c'est pas grave.
Oui, il sait de quoi il parle.
Ouais, c'est ça, le mec, c'est un pro, il sait de quoi il parle. C'est juste trop tard, quoi. Et c'est pas grave.
Puis après, en 2013, tu vas voir un nouveau plateau, cette fois-ci au Paname. Ouais. Ce soir-là, il y a Farid qui est sur scène.
C'est ça.
Avant qu'il soit vraiment connu comme aujourd'hui. Ouais. Mais bon, il était déjà très fort, ça reste Farid.
Ouais.
Tes amis t'encouragent à essayer. Et deux semaines après, tu t'inscris pour un 5 minutes au Labo du Rire.
C'est ça.
Comment elle se passe, cette toute première scène ?
Hyper bien. Franchement, c'était cool. Bon, après, j'y étais en totale détente, hein, parce que j'attendais rien de particulier. Je m'en foutais un peu, à vrai dire. C'était juste pour s'amuser, quoi. C'était, ouais, vas-y, on va rigoler. Puis j'étais dans ce mood-là, et c'était cool. Franchement, ça s'est plutôt tranquillement passé.
Et est-ce que tu sais de quoi tu parlais ?
Ah, ça devait être très nul, hein. Je sais plus, de la merde. C'était certainement de la merde. Mais c'était cool, franchement, j'ai pas bidé. Ouais, y a pas non plus 40 000 personnes, il devait y avoir 20 personnes dans la salle à peine. Et ça va, c'était cool. Franchement, j'en garde à mon souvenir. Je me souviens pas de ce que je racontais. Je me souviens juste que ça s'est plutôt correctement passé pour une première, ça va.
Et après, rapidement, t'as voulu enchaîner les plateaux ou...
Ouais, après j'ai enchaîné, ouais. Mais c'est pas comme aujourd'hui où, à l'époque, y avait que le labo pour les débutants. Enfin, il y en avait peut-être... Je sais même pas, mais... Donc on faisait que du labo. Comme il n'y avait pas beaucoup d'humoristes nouveaux, c'était toutes les semaines les mêmes gens, quoi. Donc on était un petit groupe comme ça, puis on faisait les labos ensemble. Il y avait Hakim, j'ai mis à l'époque avec moi. Et on a démarré à peu près ensemble. C'était mon premier ami dans le stand-up, Hakim. Puis c'était ça, mais je le faisais vraiment en détente, quoi. C'était... Ça me faisait rire, il n'y avait rien de sérieux, quoi.
Après, j'ai entendu que c'est Farid qui a changé beaucoup de choses pour toi, parce que vous vous croisiez au Paname, mais vous n'étiez pas encore amis. Puis après, il y a un soir, vous vous êtes posé au Paname avec d'autres humoristes comme Hakim Gemini et Farid, et vous discutiez de blagues et tout ça. Et Farid explique que c'est toi qui répondais le plus, tu répondais au tac au tac, et ça lui a beaucoup plu. Et du coup, le soir même, il t'envoie un message qui dit « J'aime bien ta façon de penser, je cherche quelqu'un pour écrire avec moi, est-ce que ça te tente ?» Comment tu réagis à ça ?
J'étais surpris parce que Farid, j'aimais bien ce qu'il faisait, je le connaissais pas plus que ça, puis j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Moi, il me dit « On écrit ensemble », mais je lui ai dit « On peut », mais enfin, je sais pas du tout ce que c'est. Et puis finalement, bah, ça a accroché vraiment direct. Avec Farid, c'était fou. Je me rappelle même de l'endroit où on était à Nation dans un café. Et j'étais en chemise parce que je sortais du taf. Et on se pose et on a rigolé. On a vraiment trouvé des bons trucs direct. Et on a rigolé. Ça a accroché tout de suite. Et je crois qu'après, depuis ce jour-là, je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne lui ai pas parlé depuis, quoi. Okay. Depuis cette journée de 2013, ça devait être en fin d'année. Parce que je me souviens, après, il signe chez JMD, genre 2-3 mois après, en décembre, il fait sa première au point virgule. Il n'était pas du tout connu à l'époque. Hein. Ouais, donc c'était fin d'année 2013. Et depuis, on se parle tous les jours, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que ça marche comme ça entre vous ?
Bah, déjà, c'est une belle rencontre humaine. On s'est trouvé humainement, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup, tu sais, Farid et moi on est très famille, très lui et moi c'est pareil, on traîne toujours avec nos potes d'enfance et on est très on a vraiment notre socle comme ça de notre entourage. Bon, on avait les mêmes délires aussi, on rigolait beaucoup. Puis je sais pas, humainement, on a grave accroché et artistiquement pareil. C'était hyper naturel en fait. On s'est même pas rendu compte qu'on devenait si proche, tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. C'était vraiment hyper naturel. Mais au début, c'était... Bah là, on se voit encore très, très souvent, mais... Puis on se parle tous les jours. Même quand on se voit pas, on se parle tous les jours. Mais même à l'époque, on se voyait tous les jours, on était ensemble. Tous les jours. Mais c'était bien, c'était une belle époque. Hein. On rigolait tout le temps, on faisait de la merde, on faisait rien de spécial, mais juste... Vas-y, on va manger, vas-y. On était hyper proches, quoi.
Et quand vous écrivez ensemble, comment ça se passe ?
Bah en fait, notre manière de travailler, elle a beaucoup évolué avec le temps. Avant, on se voyait beaucoup, et on écrivait beaucoup ensemble, et on réfléchissait beaucoup ensemble. Je pense aussi qu'à l'époque, Farid, je te dis, il n'était pas encore hyper connu. Je crois qu'il avait besoin d'être pas mal rassuré et d'être un peu... Il a besoin de se sentir entouré, tu vois. Je pense que ma présence le rassurait pas mal. Je me rappelle d'ailleurs la première fois au point virgule, je pouvais pas être là. Et il était... il me dit, putain, mais... Je dis, mais c'est pas grave si je suis pas là. Et il me dit, non, mais quand même. Et donc, au fil du temps, notre manière de travailler, elle a beaucoup évolué. Parce que Farid, je crois qu'il s'est beaucoup... Il a fini par se connaître lui, tu vois, et il a pris en confiance. Et c'est fou hein, de parler de Farid comme ça. Hein. Farid, oui. Manque de confiance, mais oui. Hein. Et donc, du coup, il a pris confiance en lui. Et aujourd'hui, bah, je te fais un grand pont, mais entre cette période-là et aujourd'hui Farid, je dis pas que je sers plus à rien, mais voilà, quoi, Farid, maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, avant, je te dis, on faisait tout le processus de réflexion ensemble. Là, maintenant, aujourd'hui, il fait tout de son côté. Et moi, je viens, je regarde et je dis, ouais. Ça, tu peux rajouter ça, ça, tu peux enlever ça, ça. Enfin, je fais vraiment des petits réglages. Puis on en parle, hein. C'est pas moi qui dis fais ci, fais ça, mais je veux dire, là maintenant, c'est juste le sel et le poivre, quoi, tu vois. Mais c'est plus du tout comme avant où le processus il était beaucoup plus en équipe. Tu sais, puis quand tu te connais, t'as moins besoin, tu vois. Là, il arrive à un stade où il maîtrise vraiment. Puis en plus, il arrive à une maîtrise là qui est vraiment folle. Là, ces derniers temps, c'est incroyable. Je le trouve trop fort en ce moment, encore plus fort qu'avant. Et donc, du coup, ouais, franchement, ces derniers trucs-là, putain, il est trop fort.
J'ai été voir Hexagone. Mm-hmm. J'ai tellement ri. J'ai aussi Cirque Royal. J'ai pleuré. Le passage avec le beatbox, j'avais mal au ventre.
C'est marrant. Hein.
Qu'est-ce que j'ai. Il y a des vannes que j'ai. C'est ça que je veux absolument. Que je voulais absolument voir le spectacle après. Parce qu'il y a quatre vannes que j'ai manquées. Je riais trop, tu vois. Moi, ma copine me demandait de faire moins de bruit. Mais... Non, c'est. Donc, s'il est encore plus fort.
Ouais, je te dis. Hein, et en fait, c'est ça le stand-up. C'est tu finis par de plus en plus être fidèle à qui tu es vraiment. Et là, sur scène, il est encore plus lui. Le lui que moi, je connais de la vraie vie. Et ouais, là, c'est vraiment marrant. Là, c'est vraiment. Il arrive à un niveau assez impressionnant.
Et s'il y a des humoristes qui veulent s'entraider comme vous le faites, qu'est-ce que tu conseilles pour que ça se passe bien et que tout le monde progresse ?
Soyez potes. Ne travaillez pas avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amis parce que ça a rien. Enfin, moi, je prends l'exemple de ma relation avec Farid. On passe tellement de temps ensemble. Si on n'était pas potes, ce serait juste du travail, en fait, tu vois. On aurait juste l'impression de travailler, d'aller au bureau, limite. Alors que là, moi, en 8 ans de travail avec Farid, à aucun moment, j'ai eu l'impression de travailler, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. C'était juste, bah ouais, je vais voir mon pote. Et puis, bah ouais, je parle avec mon pote. Et on discute, quoi, tu vois. Et on rigole, mais il n'y a rien de formel, quoi. Alors que quand c'est quelqu'un avec qui t'es pas vraiment pote, bah là, c'est un peu plus formel, c'est un peu plus... c'est moins organique, quoi. C'est moins naturel.
Et j'ai entendu que c'était surtout Farid qui t'avait fait comprendre ce qu'était le stand-up et qui t'a transmis sa passion pour le stand-up. Ouais. Et qu'à partir de là, t'as regardé énormément de stand-up, t'as rattrapé un peu ton retard parce que tu disais que tu ne consommais pas de stand-up.
Ouais.
C'est quoi les premières claques que t'as eues en matière de stand-up quand t'as découvert ce monde?
Je pense que c'est Cité, hein. Où j'ai vu autre chose en fait, où j'ai vu un autre niveau. Ouais, c'était incroyable. Bon, j'ai tous regardé d'un coup. J'en ai vu un, j'ai dit ok, c'est bon. Kevin Hart à l'époque aussi, je le trouvais assez fort. Moi aujourd'hui, même s'il est encore très fort sur scène, mais dans le début, je le trouvais. J'ai regardé tous ses spectacles et les anciens, c'est vraiment fort. Hein. Mm-hmm. Franchement, je suis moins fan aujourd'hui, mais les anciens, c'était assez impressionnant.
Complètement d'accord avec ça, ouais. Mais en même temps, c'est dur de dire oh non, Louis C.K., bof.
Ouais.
Après, t'as arrêté ton taf combien de temps après avoir commencé le stand-up ?
Quelques mois, quoi. Mais, ah non, quelques mois, je pense, je dirais.
Et donc là, tu fais une rupture conventionnelle avec ton patron, ce qui te permet de toucher du chômage pendant un an. Mm. Et tu te dis, j'ai un an pour que ça marche.
C'est ça.
Sinon, j'arrête. Comment il s'est passé cette première année ?
Très cool. Très cool, comme j'avais à la base un salaire assez cool. Le chômage est assez cool, donc ce qui fait que j'avais pas de pression financière. Ma seule pression, c'était ça va s'arrêter un jour. Mais pendant cette année là c'était cool, j'avais pas de problème d'argent, j'avais pas de problème de rien du tout, en fait c'était juste je m'amusais et c'était vraiment hyper cool. Et je gagnais encore que dalle à l'époque, mais vraiment 0-0-0 avec le stand-up. Et donc du coup c'était un peu l'angoisse de il va se passer quoi après, tu vois. Moi j'avais déjà 27-28 à l'époque, peut-être. T'as plus l'âge de galérer, quoi, tu vois. À cet âge-là, j'avais plus envie de galérer. Donc, du coup, les dernières semaines avant la fin de cette fameuse année, je me dis, ok, écoute, on a passé une belle année, on a bien rigolé, mais faut arrêter, quoi. Faut être une grande personne et puis faut aller travailler. Et finalement, j'ai eu de la chance, j'ai touché de l'argent de toute cette année, en fait, parce que souvent, tu reçois des trucs, tu sais, c'est plusieurs mois après. Et là, peut-être 2-3 semaines avant que mon chômage termine, je reçois, je crois que c'était 4 000 €, un truc comme ça. Donc je dis, voilà, 4 000 €, je suis bien pour encore 2-3 mois. On y va encore, on a encore ça, on va passer l'été tranquille. C'était en juin, je me rappelle. Et de là, ça a roulé, quoi.
Vous voyez pas, mais il y a des petites étoiles dans ses yeux.
Le fric.
J'allais dire la passion.
Non, la passion du fric.
Et j'ai entendu que t'essayais de jouer tous les soirs et que chaque soir, au minimum, tu essaies de tester toujours un petit quelque chose, une vanne, un angle, une façon de dire un truc, mais jamais tu y vas pour refaire quelque chose que t'as déjà fait tel quel. Est-ce que c'est le cas depuis le début et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Ouais. Ouais, et puis ça, je crois que c'est vraiment le seul truc qui te fait progresser, en fait. Si tu y vas et que tu fais toujours la même chose, toujours de la même manière, ok, les gens, ils vont rigoler, mais est-ce que toi, t'as avancé ? Je crois pas, tu vois. Ça va juste te flatter ton ego si tu veux. Mais si tu fais ce métier pour l'ego, tu vas devenir une très mauvaise personne. Donc, non. J'ai toujours eu cette volonté de m'améliorer, en fait. Puis je l'ai encore et je crois que c'est ce qui me maintient. Hein.
C'est ce qui fait que tu t'améliores.
J'espère, en tout cas. Ouais.
Je t'assure que oui. Quand tu vois le premier passage qui est disponible au Jamel Comedy Club et quand on voit ton Netflix. Il y a un bon, tu vois.
Ouais. J'espère qu'il y aura un bon avec les prochains trucs qui vont sortir, mais.
Ah, oui. J'ai hâte de voir la suite. Mm. D'où la captation.
Ouais, ça va arriver.
Et t'as joué dans de nombreux comédie clubs, dans des salles de spectacle, mais aussi dans des bars, des caves. C'est quoi ton lieu préféré pour jouer ?
Je pense que c'est à Montréal. Hein. C'est pas un lieu, c'est une ville, hein, mais. Bon, c'est un lieu, hein, quand même. Ouais, Montréal, c'est vraiment. C'est là où je me sens le mieux pour faire du stand-up.
Et pourquoi ?
Je pense que c'est rapport au public. C'est là-bas, c'est un public qui est aguerri, qui connaît stand-up. Et ça ne veut pas dire que le public français est mauvais. Ça veut juste dire que le public québécois a plus d'expérience stand-up. Ça veut juste dire ça. Ce qui fait que là-bas, ils te comprennent beaucoup plus facilement. Donc, enfin, t'as l'impression que la connexion elle est plus directe avec le public, tu vois. Parce que c'est ça qu'on cherche finalement. Le rire, c'est juste une connexion un peu marrante avec les gens, quoi. Mais là-bas, la connexion, elle est... Tu vois, ça va vite. Et ça, c'est un régal quand t'écris, surtout pour la phase de création. Moi, j'aime bien l'écrire là-bas, justement, parce que ils te comprennent beaucoup plus. Parce que ça, au début, en fait, quand t'écris, déjà, faut que ce soit drôle, puis faut que les gens comprennent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Comprennent ce que tu racontes, tu vois, puis comprennent ton point, comprennent pourquoi ce que tu racontes est marrant. Et là-bas, ils le comprennent beaucoup plus vite parce qu'ils ont cette expérience de l'écoute du stand-up, tu vois. Ah bah, c'est vraiment, c'est mon endroit préféré.
Je peux comprendre, parce que j'adore le Québec. Mes humoristes préférés, c'est les Québécois, de très loin. Même plus que les Américains, mais ça, c'est peut-être parce que je les ai découverts d'abord, donc il y a un affect. Mais j'adore ça. Et ici, en septembre, je pars là-bas.
Ah, génial.
Je pars un an maximum. On va voir combien de temps je vais rester là-bas pour faire un maximum de scènes là-bas, progresser
trop
un
bien.
Petit peu.
Tous les trop bien. Là, tu vas kiffer.
Hein. Ouais, j'espère que je vais trouver des scènes.
Oui, tu vas finir par trouver, bien sûr. Bon, au début, c'est toujours un peu difficile, le temps que les gens te connaissent, mais après, ça va.
J'ai hâte.
Ah, tu vas kiffer, je suis jaloux.
Ouais, j'avais déjà entendu que tu disais si tu n'avais pas d'enfant.
Ah oui, si j'ai pas ma fille, j'habite là-bas, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est sûr. Je reviendrai toujours en France pour jouer de temps en temps, mais mon lieu principal de résidence, ce serait là-bas, c'est sûr.
Est-ce que t'as un lieu préféré où jouer à Montréal ?
Bah, le bordel.
Hein. Le bordel. Le
bordel, c'est la maison mère. Hein.
J'espère pouvoir jouer là-bas, mais juste déjà jouer à Montréal, le kiff.
Ouais.
Mais alors jouer au bordel.
Moi, tu peux faire l'open mic sans problème. Hein. L'open mic, c'est assez accessible. Hein. Mais je le fais encore tout le temps. Dès que j'y vais, je fais open mic. Hein. Ouais, je le fais tout le temps.
Ah bon, on se croisera là-bas.
Ah ouais, j'ai hâte. Mais je pense que je vais y retourner bientôt.
Oui.
Bah, comme j'ai un nouveau spectacle à écrire.
Ok, ouais.
Ouais, le bordel, c'est le meilleur endroit du monde.
Pour le moment, mon endroit préféré pour jouer, c'est le Kings.
Ouais, c'est cool, le Kings.
Mais c'est aussi là où j'ai découvert ce monde que tu disais tout à l'heure. C'est le cerveau qui explose de waouh, c'est parfait.
Ouais. Donc il y a un affect avec, ouais.
Ouais. Bah, d'ailleurs, l'épisode juste avant, c'est un épisode avec le gérant du Kings où on parle de...
Cédric,
ouais. Où on parle de l'endroit et c'est... Enfin, on revient un peu sur tout le parcours
du lieu
et c'était assez cool de reparler de ça. Mais j'adore ce lieu, donc je pense que le bordel... Tout ce que j'entends...
Péter un plomb.
Ouais, je vais péter un plomb. Très clairement. En plus, souvent, je suis le compte du bordel et je vois le line-up et je me dis, mais c'est pas possible ce line-up, c'est incroyable.
C'est fou, il y a un vrai niveau.
À fond. Mais c'est ça, c'est pour progresser, ça va être bien.
Ouais.
Ça va être très très bien. Alors, ensuite, t'as fait les sessions ouvertes le mardi soir du Jamel Comedy Club. Et j'ai lu que t'avais remporté la saison 2014-2015 des scènes ouvertes. Il y avait un concours, en fait.
Ouais, en fait, tous les mardis, t'as des gens qui viennent tous les mardis. Et à la fin, ils en désignent deux, je crois, pour les gagnants de la saison, quoi. Ceux qui ont été les plus marquants pour eux dans la saison. Et à l'époque, c'était une belle année, hein. Franchement, ça, c'est une de mes plus belles années. C'était vraiment trop cool. Il y avait une ambiance... mais au-delà du Comedy Club, au Paname, enfin, il y avait une vraie ambiance. 2014-2015, c'était ma meilleure période, je pense, en termes d'ambiance stand-up. C'était fou, quoi. C'était... Je sais pas, on était tous les jours, tous ensemble, ça rigolait. On restait tous les soirs jusqu'à 3-4 heures du matin à rigoler, mais c'était vraiment fou, quoi. La période, elle était incroyable. Donc, tous les mardis, ouais, j'allais au Comedy Club à l'époque. Puis en plus, on avait une belle génération. À l'époque, t'avais les réguliers qui revenaient souvent. T'avais moi, Fadili... qui a gagné avec moi cette année-là d'ailleurs. Thomas Wiesel qu'on faisait beaucoup, il y avait Haroun, il y avait Wari Nishen. Ouais, Wari, il était déjà là. Hein. Ouais, t'avais
Alban Ivanov qui est là depuis un pire moment.
Ouais, mais il était pas trop Debjam Alban.
C'est surtout dans la troupe.
C'est surtout dans la troupe, ouais. Et donc tu vois rien que ça, Haroun, Fadili, Wari, Thomas Wiesel, tu te rends compte, c'était ça quoi le line-up. Il y avait vraiment une très belle génération.
Mais après t'intègres la saison 8 du Jamel Comedy Club, tu fais la tournée avec la troupe.
Saison 7 avant.
J'ai
fait 7 et 8.
7 et 8. Ouf, excusez-moi, la qualité des recherches. Est-ce qu'on peut continuer quand même?
Non.
Non, bah,
c'est terminé.
En tout cas, c'était un plaisir. Mais donc, t'intègres le Jamel Comedy Club et tu fais la tournée avec la troupe. Comment tu décrirais cette expérience et est-ce que ça t'a aidé à progresser?
Oh bah oui. Ah non, mais là, c'était de la folie. Je suis passé de des petits comedy clubs, donc de jouer devant 40, 50 personnes, à une tournée en France devant des 1500, des 2000, d'un coup quoi. C'était vraiment un saut d'un coup. Et non, c'était hyper formateur. En plus, l'équipe a été incroyable. L'ambiance de cette équipe, c'était vraiment de la folie. C'est-à-dire que les anciens, parce qu'avant nous, le Comedy Club, l'ambiance, elle n'était pas fofolle. Et parfois, il y a des anciens qui venaient faire des dates avec nous. Je me rappelle de Walidia une fois qui me dit « C'est toujours ça l'ambiance ?» Je dis « Bah ouais ». Il me dit, mais vous avez tellement de chance. Nous, ça rigolait, mais H24. Mais l'équipe, elle est incroyable. Il y avait Younes et Bambi, Farid Chamek, Fadili Kamara, Foudil Kaibou, Alban Ivanov, Il y avait qui d'autre? Nick Moukoko, Christine Bérou. C'était vraiment une petite famille, quoi, tu vois, avec Ismaël JC à la direction de tout ça, mais c'était. Ah, qu'est-ce qu'on rigolait! Et évidemment, bah, quand tu passes ta vie en tournée, là, on partait vraiment, c'était de la vraie tournée, quoi. On partait des 3-4 jours par semaine, toutes les semaines. On avait, je crois, 40, 50, 60 dates par saison, tu vois, c'est de la folie. Et devant des salles de 1500, 1000, 2000. Et là, t'apprends, quoi. Là, t'apprends. Le rythme, t'apprends à être marrant parce que bah y a pas le choix quoi, t'as 15 minutes et faut y aller quoi. Et c'est Alban qui m'a fait vraiment progresser de fou. Il y a eu un vrai virage en fait dans enfin tu sais dans stand-up t'as des déclics.
Oui.
Tous les quelques mois t'as putain ouais. Et en fait tu apprends un truc et ça te fait passer à une étape supérieure et c'est Alban qui une fois tu sais parce que quand t'es en tournée on se regarde pas forcément sur scène, tu sais, tu fais ton passage, puis après tu vas dans les loges, tu rigoles, tu machins, tu trucs, tu manges, tu fais autre chose. Et moi j'étais hyper proche d'Alban, c'est-à-dire qu'Alban et moi on était tout le temps ensemble, toute la journée, tu vois.
Ok.
On rigolait beaucoup. Et un soir il me regarde, parce que lui il présentait, donc il regardait pas trop. Et un soir il me regarde, il vient me voir à la fin, il me dit ouais c'est bien, il me dit mais je vois pas le mec marrant avec qui je passe mes journées. Il me dit je le vois pas sur scène. Et là bah. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma. Le lendemain, j'ai refait la même chose en étant moi. Et ça a donné tellement de volume à mon passage, c'était de la folie.
Ok. Ouais. Il a suffi qu'il le mette en évidence
ouais.
pour que tu arrives à changer directement.
Exactement. Ouais, ouais.
Parce que c'est un truc que moi je trouve assez difficile d'arriver à être soit le plus possible, c'est toujours. Tu progresses au fur et à mesure, mais de ne pas avoir un personnage, tu as vraiment réussi à faire un switch.
Bah ça s'est pas fait d'un coup, mais je veux dire le gap entre la veille et le lendemain, c'était quand même c'était ouais. de la folie. Évidemment, là si je te parle d'aujourd'hui, oui, je suis encore mille fois plus moi aujourd'hui qu'à cette époque-là. Mais c'est ce jour-là où j'ai compris ça, quoi, où j'ai compris qu'il fallait être soi.
C'était un palier à passer, quoi.
Ah ouais, mais ouais, ça c'est vraiment un gros tournant dans mon évolution.
Et j'ai lu que t'avais aussi écrit pour d'autres comédiens de la troupe. Pour qui est-ce que t'as écrit et pourquoi t'aimes ça écrire pour les autres?
Alors déjà, j'aime pas dire pour, je vais mieux dire avec.
Ah,
ouais, ouais, parce que écrire pour, c'est un peu dégueulasse. Ça fait genre, tiens, je t'écris ça, vas-y, joue. Non, moi, je bosse pas comme ça, c'est juste avec, c'est donner des coups de main, quoi. Donc, j'ai bossé avec Fadili pendant longtemps, avec Alban pendant longtemps, une essai Bambi à un moment. De la troupe, c'est à peu près tout. Farid Chamek, je lui donnais 2-3 trucs sur quelques trucs, tu vois, mais on n'a pas officiellement écrit ensemble, tu vois. Puis voilà.
Pourquoi tu aimes écrire pour les autres? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Bah déjà, ça peut paraître un peu prétentieux, mais déjà c'est dans ma nature de rendre service. Moi, je suis quelqu'un qui fait les déménagements, quoi. Enfin, ouais, je suis ce gars-là, quoi, que tu peux appeler n'importe quelle heure. Vas-y, je suis là, je suis en galère. Vas-y, j'arrive.
J'aime bien ça aussi.
Ouais, je suis vraiment ce gars-là, quoi.
Déménagement, c'est le truc sur lequel je dis à mes amis, vous allez bouger, prévenez-moi. C'est le seul domaine où je peux vous apporter les caisses. Après, une fois qu'il faut monter les meubles, je suis parti parce que je suis d'aucune utilité. Mais lever les caisses, je sais le faire. Donc je vais.
Ouais, c'est ça. Donc c'est des tempéraments, quoi. Tu vois, c'est des natures. Moi, je suis de nature comme ça, à aider les autres. Donc, je pense que je le fais plutôt bien, hein, parce que pour l'instant, ça marche et on me sollicite pas mal pour ça. Donc moi, je crois que c'est juste ma nature, quoi.
Mais j'arrête pas de dire que j'ai entendu, mais c'est parce que j'ai fait mes recherches approfondies. C'est que t'avais un truc qu'on a en commun et que moi je m'étais pas rendu compte de ça, c'est que quand tu vas voir du stand-up, tu fais ton passage, mais tu vas regarder aussi les autres.
Ah bah oui.
Et ça, moi je me disais, bah tout le monde fait ça. Et il y a un pote qui m'a fait remarquer, non.
Pas du tout.
C'est toi qui, quand je vais voir une scène, j'aime bien passer dans les premiers, comme ça je vois les autres et je reste et je suis passionné. Et il me dit, mais en fait, si tu regardes autour de toi, il n'y a pas les autres. Ils sont dans les loges, ils sont dehors, ils sont en train de fumer, ils sont en train de penser à leur passage. T'as aussi ce truc de passionné de stand-up. Il faut que tu regardes, même quand c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose que t'aimes spécialement, mais tu veux voir comment il va aborder le sujet, tout ça.
Ouais, je me sens. Enfin, il y a quelqu'un sur scène, je regarde, quoi. Je me sens attiré, quoi. Même si des passages que j'ai vus 1 milliard de fois, parce que finalement, on se voit tous. On connaît les passages des uns des autres par cœur, mais même, il y a quelqu'un sur scène, je regarde. Je sais pas, j'arrive pas à faire autre chose.
Ok. Et t'as ce truc de vouloir faire un retour, donner des avis, donner des idées ou...
Quand c'est des gens que j'apprécie vraiment et dont je suis proche, parce qu'il faut quand même une certaine proximité pour se permettre, tu vois, d'aller dire à quelqu'un « tu pourrais faire mieux ». Parce que c'est ça, clairement. Oui. Donc il faut quand même une certaine proximité, puis il faut que tu saches... que tu connaisses la personne et que tu saches qu'elle va pas mal le prendre, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre mal, hein, tu vois, tu lui dises moi j'aurais fait ça en plus, en moins, tu vois, tu dis, mais t'es qui pour te permettre. Donc du coup, quand c'est des potes, ouais, je le fais avec plaisir tout le temps, bien sûr. Okay. Je trouve ça même normal, et puis même moi, quand on vient me le faire, avec plaisir.
Ouais, j'avoue. Bah, c'est les quelques fois où on a fait des retours, j'ai toujours trouvé ça cool, en fait.
Ouais, bah ouais. Hein.
Même si t'es pas d'accord avec le truc, tu...
Ouais, ouais, la démarche, moi, je le trouve cool, ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Après, je suis aussi d'accord avec le fait qu'il faut connaître un peu la personne.
Ouais,
et...
c'est ça.
Il y a des gens qui arrivent à dire des trucs, il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout, mais...
Ouais, puis c'est délicat d'aller voir... Excuse-moi, je me présente, en fait, je m'appelle Jason, est-ce que t'as fait... ça aurait été mieux si tu fais ça. Ok, mais t'es qui, en fait? Je te connais pas.
Enfin, il y a aussi des avis complètement claqués aussi.
Ah ouais, de ouf. Ah ouais, de ouf. Donc ne me parle pas, en fait.
Après, en 2015, tu assistes au Marrakech du Rire, mais en tant que spectateur, parce que tu venais d'intégrer la troupe. Puis après, en 2016, tu joues pour la première fois sur cette scène du Marrakech du Rire. Comment ça s'est passé pour toi, le
Incroyable.
Premier
Voilà. Ah, c'est de la folie. En plus, je t'ai dit, on sortait de la tournée, on était... Tu te retrouves à Marrakech, il fait beau, t'es dans un bel hôtel, machin, c'est les vacances. C'est vraiment la colonie de vacances, avec en plus le spectacle devant 3000 personnes. Donc alors là, c'était de la folie.
Depuis, t'as joué aussi au festival de Montreux. Mm-hmm. Est-ce que c'est un stress supplémentaire de jouer dans ces festivals et tout ça, ou pas?
Bah moi, je suis pas de nature stressée, donc ça va. Et peut-être qu'à l'époque, un peu, quand il y avait des captations, je stressais quand même un peu. Mais surtout les caméras qui me faisaient chier, en fait. J'aime pas jouer pour les caméras, j'aime bien jouer pour le public, tu vois. Et justement, aujourd'hui, j'ai appris à oublier les caméras et à juste jouer pour le public qui est en face de moi, tu vois. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Mais non, je suis pas de nature... Avant, oui, il y a quelques années, je t'aurais dit... mes premiers passages Comedy Club, j'avais quand même un peu... C'était un peu stressant. Mais là, maintenant, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre à un niveau... Ah, tu peux me faire jouer n'importe où, je m'en fous. 1000, 2000, 30, 20, 10 personnes, 40, mais j'en ai rien à foutre.
Là, c'est moi qui suis jaloux maintenant. Mais il y a plusieurs humoristes, hein, qui m'ont dit dans le podcast qu'ils sont devenus moins stressés,
ouais,
à ton contact que ton exemple de gars détendu avant, après et pendant la scène. Ça les avait aidés, mais ça vient d'où cette détente? Est-ce que je peux l'avoir? Comment ça se...
Bah, en fait, faut le secret, enfin, je sais pas si c'est le secret, mais je crois qu'il faut juste s'en foutre, en fait. En fait, le truc, c'est que je joue tellement. Je joue tous les soirs. C'est-à-dire que je sais que ça marche, je sais que je suis bon. C'est pas de la prétention, mais c'est factuel, en fait. Ça marche. Donc, pourquoi je vais avoir peur? Je sais que ça marche. Puis même si ça marche pas, ils rigolent pas. Ce sera, je sais pas combien il y a de personnes ce soir, 300 ou 500 ou même 200 ou même 1000. Bah eux, ils vont pas rigoler, puis voilà, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un va mourir ce soir à cause de ça? Je ne pense pas. Donc en vrai... Il n'y a aucune raison de stresser, en fait. Parce qu'il n'y a rien de grave. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que les gens ne rigolent pas. C'est ça, le pire. Et franchement, c'est pas si grave que ça, en vrai. Je veux dire, les gens, ils vont rentrer chez eux, ils vont être en vie, ils n'auront peut-être pas rigolé, mais ça va, leur soirée n'est pas foutue, leur vie elle n'est pas foutue. Puis les gens, ils vont t'oublier, non, merde, sur une facture, ça y est, t'existes plus. Hein. Donc... C'est ça, en fait. Une fois que tu dis le pire qui puisse t'arriver, ils vont pas rigoler. Ok, c'est que ça.
Mais c'est vrai que des fois, il y a des scènes où t'as ce truc de « si je bide, on me rappellera pas ».
Mais ça, parce que c'est le début.
Enfin, oui.
Moi, j'ai pas ça parce que les gens me connaissent et on va me rappeler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au début, je peux comprendre cette... Même si, en vrai, de vrai, moi, je vais plus respecter quelqu'un qui va tenter et bider que quelqu'un qui va faire des trucs qu'il fait depuis 10 ans et qui va marcher.
Oui.
Moi, le bide, pour moi, c'est total respect, tu vois.
Ouais, j'avais entendu, c'est un truc qui avait fait un petit déclic que j'avais entendu que tu disais. C'était, il vaut mieux quelqu'un qui fait bide, c'est génial,
ouais,
que quelqu'un qui fait bien.
Bah
bien,
ouais.
Et c'est tout.
Ouais, c'est ça. Faut bider, hein, pour que ça soit bien.
J'aime bien les gens qui savent ça, parce que tous les humoristes sont pas à fond avec ça. Ils vont voir que tu bides, pour eux c'est mort.
On s'en fout. On joue pas pour les autres humoristes, en fait. Hein.
Non, mais je veux dire
pour les programmateurs.
Pour être rappelé,
ça c'est encore autre chose, ouais. Bah au début, c'est sûr qu'il faut d'abord bien marcher. Donc tu te fais ton passage où ça marche bien. Puis une fois que les gens savent que tu marches bien, après c'est bon. Et il y a ça aussi, faut surtout s'enlever de la tête qu'on joue pour les autres humoristes. Mais l'avis des autres humoristes, je m'en tape à un niveau. Parce que c'est pas eux qui viennent dans la salle, en fait. Puis même s'ils viennent, je les invite, ils payent même pas. Donc honnêtement, après c'est, en fait le truc, c'est que c'est hyper important d'avoir le respect de ses pairs. Moi, c'est trop bien quand t'as tes collègues qui te disent que tu fais du bon travail. Ça, franchement, c'est inestimable. En vrai de vrai, on joue, évidemment, on est content d'avoir le public et tout, mais il y a une fierté supplémentaire que des professionnels qui font ton métier te disent c'est bien. Parce que ils ont cette légitimité, entre guillemets. Mais, à contrario, il faut pas avoir peur qu'ils pensent que t'es pas drôle. Ça, je m'en fous. Qu'ils aiment bien, je suis trop content. Qu'ils aiment pas, force à vous, je m'en fous.
J'espère un jour faire un podcast et avoir cette détente de dire moi je m'en fous. ça serait un énorme progrès, mais pourquoi pas. Est-ce que toi tu vois une différence entre les publics quand tu joues en Suisse, en France, en Belgique, au Québec? Au Québec, tu disais que les gens étaient plus habitués au stand-up et du coup ils captaient plus facilement et tout ça, mais est-ce que entre Belgique, France, Suisse, tu vois une différence
ou... Oui, quand même. Belgique, meilleur public du monde.
Yes.
On juste tard le Québec. Ouais, Belgique, c'est de la folie. Belgique, c'est franchement, c'est un public. Bah, tout le monde te le dira de toute façon. Hein. Belgique, c'est un public incroyable. La Suisse, ils sont très très bons aussi. Hein. Vraiment fort. Hein. Après, t'as des villes où on sent que le public est plus chaleureux et plus chaud. Donc, il y a des zones vraiment où le public est plus chaud. On le sait. Hein. Donc, c'est une vraie vérité, quoi. Tu vois. Après, ça veut pas dire que les autres villes sont claquées. Hein. Ça veut juste dire que c'est des ambiances, quoi. Ouais. Okay. Mais Belgique, franchement, top niveau. Niveau public, rien à dire.
Bah, ça fait plaisir.
Ouais.
C'est quoi ta meilleure scène depuis le début que tu fais du stand-up?
Oh, c'est dur à dire ça. Il y en a eu tellement des biens. Il y a eu Marrakech, il y a eu Bercy, il y a eu Cirque Royal, il y a eu toutes les scènes du Québec. Ah, il y en a tellement. J'ai pas une comme ça qui m'a.
Quand j'ai dit
la meilleure... cigale, c'était de la folie.
Quand j'ai dit meilleure scène, il n'y en a pas une qui a popé directement.
Non. Sarfati, c'est incroyable à jouer.
Sarfati, j'ai eu l'occasion d'aller voir quand je suis allé à Paris début mars. Magnifique cette scène.
Ouais, c'est trop bien.
Magnifique tout en fait. Tout est tellement stylé.
Ah ouais, non, c'est fabuleux. Mais au Paname, en vrai, à l'époque, on a vécu des grosses soirées. Hein. Donc en vrai, non, j'ai pas eu une salle. Non.
Mais si je te dis la pire, là, ça vient tout de suite ou...
Même pas. Ouais, il y en a eu plein des pires aussi. Hein.
Ensuite, tu as créé ton premier spectacle qui s'appelait « Je sais ce que je fais ». De quoi il parlait ce premier spectacle?
Oh, c'était nul. Oh, je m'en rappelle. Bon, en fait, c'est ça le problème du spectacle, c'est que ça parlait de tellement de choses. Il y avait un milliard de sujets. Il y avait deux blagues. Du coup, je parlais de rien, en fait.
Okay, ouais.
Tu sais, quand tu fais deux blagues sur un sujet, tu dis rien, en fait. Tu as vu, là, mon spectacle, là, je te l'ai fait en quatre blocs.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment ça, il y a quatre blocs. Donc du coup, tu prends le temps de parler de certaines choses. Là, le premier, vas-y, c'était juste des blagues en fait. C'était une succession de blagues en fait, sur un milliard de sujets. Donc finalement, il n'y a rien.
Et est-ce que tu penses que tu as été trop vite au premier spectacle?
Ouais, sûrement. Mais je pense que mon premier passage Comedy Club, il a été un peu prématuré. Je pense pas que j'étais prêt. Ça s'est bien passé en plus, hein. Ça s'est hyper bien passé. Excellent retour, ça a bien marché. Hein. Mais j'étais pas prêt en vrai. Si je pouvais retourner en arrière, ça c'est un truc que je ferais pas. Même si je suis fier de l'avoir fait, ça s'est bien passé, très cool, hein, mais... Mais je l'aurais fait plus tard. Je l'aurais repoussé d'au moins 3 ans, je pense. Alors que ça m'a lancé. Hein.
Oui.
Depuis là, ça va.
Mais j'entends souvent que tu dis ça. Et d'ailleurs, c'est les gens de ton équipe qui s'occupent de ta com disent d'arrêter de le faire. De dire, venez me voir. Dans 15 ans, je serai bon. Mais venez me voir maintenant au niveau où j'en suis.
Ouais, bah c'est ça la vérité. si on est honnête, c'est ça. Hein. C'est ça. Enfin, t'es pas bon au début. Puis même si tu crois que tu l'es, même aujourd'hui, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais c'est pas encore le niveau que j'envisage d'avoir, tu vois. Donc on avance et c'est normal aussi. Il n'y a pas de magie dans le stand-up, il n'y a que l'expérience qui te fait être plus fort. L'expérience. Donc du coup, tu peux pas tricher.
Et donc il faut être en paix avec l'idée de se dire, pour le moment je fais de la merde.
Ouais, bah oui.
Ouais, chaud quand même.
Ouais, mais il faut accepter en fait, que... En fait, il faut kiffer ce que tu es en train de faire. Prendre du plaisir en le faisant, mais il faut bien se mettre en tête que ce sera quand tu vas regarder dans 3 ans ce que tu faisais, tu vas dire c'était pourri.
Et c'est bon signe.
Et c'est bon signe, bah oui.
Alors niveau écriture, je pense que toi t'es du genre à écrire des notes tous les jours dans ton téléphone et que environ toutes les 2 semaines tu reprends sur papier, tu regardes ce qui est exploitable ou pas, mais tu jettes jamais rien.
Non.
Et après tu testes sur des plateaux. Il t'arrive même de monter genre au Paname pour 1 minute. J'ai entendu ça dans Dinguerie Room, j'étais là pour 1 minute. Tester une idée et repartir. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire, pour avoir des notes tous les jours?
Je sais même pas si j'en ai tous les jours, hein. J'en ai régulièrement, mais bah, c'est tout con, hein. Dès que tu penses à un truc, tu notes, hein, c'est tout. Hein. Marrant, pas marrant, on s'en fout, dès que t'as un truc en tête, hop, je note. sais même pas c'est quoi mes dernières notes tellement. C'est bah, sûrement de la merde. Hein.
J'allais te demander c'est quoi ta dernière note justement.
Là, j'ai noté port du masque dans un cimetière, ça va un peu loin. Je pense que l'idée c'était tu vas pas tuer des gens qui sont déjà morts quoi. C'est ma dernière note.
Moi, ma dernière note c'est j'aimerais que toutes mes interactions sociales soient un podcast.
Ce serait chiant.
Ce serait tellement moins stressant quand les gens viennent te parler d'un truc, tu sais pas de quoi ils veulent te parler. T'es un peu pris au piège alors que, hey, on pourrait pas se voir jeudi prochain de 10 à 15. J'ai besoin.
Ouais, mais c'est pas une vie.
Ouais, mais comme ça, je sais. Je dis pas pour les gens avec qui t'es. Peut-être pas toutes les interactions sociales. Certaines interactions sociales de gens que tu croises dans la rue, que tu les as plus vus depuis 10 ans, tu sais, genre, je sais pas de quoi ils vont me parler. Alors, je vais te parler demain, entre 10 et 11 heures, de la météo. Ok, ah ouais, mais... ça marche.
Ah ouais, t'as pas moins spontané comme manière de vivre.
Mais c'est juste moins stressant aussi. Tu vois, je veux dire que les gens que t'aimes bien, tu sais qu'il n'y a pas de stress dans la conversation, tu vois. Mais ici, moi, je suis bien de savoir que tu as accepté de parler avec moi, qu'on a un temps pour parler, un lieu, qu'on sait de quoi on va parler, que si je te croisais dans la rue, je serais beaucoup moins à l'aise, par exemple. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a beaucoup de choses à régler. Hein. C'est pas moi qui vais le faire, mais t'as beaucoup de travail. Hein.
On continue la thérapie, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'épisode thérapie cette fois-ci. D'habitude, c'est plus compliment, aujourd'hui, c'est thérapie. Mais voilà, je sais pas, j'ai besoin de me confier aujourd'hui.
Ah ouais, là, c'est un gros manque de confiance en soi, mon petit bonhomme. Hein.
Ah, si ma copine écoute ce passage-là, ça va la faire tellement rire que tu dis ça. Continuons sur toi, parce que maintenant, je suis gêné. Ensuite, le 23 janvier 2018, il y a Adib Al-Khalidé, dont on parlait tout à l'heure, qui te contacte, car il a été choisi par Netflix pour intégrer l'émission des humoristes du monde pour le Canada, et donc faire un passage de 30 minutes pour Netflix, et il aimerait ton aide, ce que tu acceptes. Mais deux jours après, c'est toi qu'on contacte à ton tour pour représenter la France, et donc jouer une demi-heure sur Netflix. Comment tu réagis à ces deux informations?
Quand Adib m'appelle, déjà, je suis archi content pour lui, parce qu'Adib, c'est mon frère, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On est vraiment très, 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 très proches. Et donc, quand il me dit ça, je suis hyper content pour lui, donc je lui dis, oui. Et d'ailleurs, c'est en juin, c'est pas en janvier.
Tragique. C'est en juin. Mais c'est juin.
C'est juin, parce que le tournage est en juillet, et on avait vraiment qu'un mois pour préparer ça.
Ça, c'est parce que j'étais perturbé.
J'aurais aimé que ça soit en janvier, crois-moi. Hein. Parce qu'un mois pour préparer, c'était dur. Ah, c'était vraiment dur. Donc du coup, Adib m'appelle. Je lui dis, mais frère, mais go. J'arrive en plus. Je devais arriver, je crois, 10 jours après au Québec. Je dis, j'arrive dans 10 jours. Si tu veux déjà m'envoyer ce que t'as, envoie-moi. Et quand j'arrive, on va faire ça. Et donc je suis hyper content pour lui. Et deux jours après, je reçois le même appel. Donc je suis un peu surpris, un peu content, un peu tout ce que tu veux. Et en plus, moi, j'ai une... tu sais, j'ai mes petits principes dans ma vie. Et un des principes, c'est de ne jamais dire oui tout de suite. Parce que sinon, des fois, tu vas dire oui et c'est de la merde. Donc du coup, il m'appelle Netflix en me disant ça. Je leur dis, écoutez, dans ma tête, c'est oui. Hein. Mais je leur dis, je vous rappelle pour vous redire. Et je réfléchis, pas du tout. Et donc, je le rappelle 2 heures plus tard en disant, allez, go, on y va. Là, vraiment, la grosse crainte, c'était dans un mois pour préparer 30 minutes. C'est n'importe quoi.
Oui, pour les auditeurs qui ne seraient pas dans le stand-up, qui n'ont jamais essayé d'écrire, une demi-heure, c'est
de la folie.
Plusieurs années, des fois, pour arriver à avoir une demi-heure correcte. Et une demi-heure qu'on peut montrer sur Netflix,
c'est ça.
C'est pas une demi-heure que tu,
c'est ça,
que
donc
tu joues dans un comédie club.
Ah ouais, non, c'était de la folie. C'était dur ce mois-là. Là. Mais en fait, c'était cool parce qu'on était vraiment suspendu dans le temps. En fait. C'était de la folie. La course contre la montre, l'excitation, le voyage. En plus, je pars en Haïti juste avant. Je fais une semaine en Haïti, je joue là-bas. Après, je vais à Montréal pendant un mois. Je tout prépare à Montréal. J'étais à Montréal. Et c'était avec Tania Dutel. C'était vraiment de la folie. Mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est relativement bien passé, considérant l'enjeu et tout le contexte, ça va.
Mais donc, t'as passé tout le mois de juillet à écrire à Kadib, Ahmed Sparrow, Tania Dutel, Farid aussi à distance.
Ouais, bien sûr.
J'ai entendu que vous bossiez de 12h à 17h et tous les soirs, vous jouiez 2 à 3 fois par soir à Montréal. Ce qui est assez fou sur un mois complet et avec un résultat génial. Donc, merci pour ce passage parce que moi, j'ai adoré ce passage.
Je sais pas, moi je l'ai pas vu, mais. Mais ouais, je crois que ça allait. Franchement, je t'ai dit, considérant le contexte, je crois qu'on a fait du travail plutôt correct. Et sur le coup, au tournage, ça s'est tellement bien passé. Il y a un truc aussi qu'il faut que les gens se mettent en tête, c'est que ce que vous voyez en image, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Un spectacle, ça se vit dans une salle. Et il y a plein de gens que vous allez voir en vidéo, vous allez dire, ouais, ça va. alors que c'est trop bien. Mais on... parce que dans une salle, il y a une énergie, il y a un truc qui se passe, il y a... et ça traverse pas l'écran. Ça, c'est pour ça qu'on dit spectacle vivant, parce que c'est ça. Donc du coup, sur le tournage, ça s'est tellement bien passé, c'était vraiment trop bien. Donc j'étais archi détente, franchement, trop bien. Sur le tournage, vraiment hyper bien.
Concrètement, niveau écriture, comment ça se passait entre vous ? T'arrivais avec une idée, tu la testais directement avec eux, après vous réécriviez, vous faisiez du ping-pong, comment ?
Ouais, en fait, j'ai commencé à structurer mon 30 minutes en me disant, bah voilà, j'ai ça, j'ai un peu l'ossature, et après, faut habiller, quoi, tu vois. Et donc, du coup, on testait plein de choses, on passait notre temps à tester, à jeter, à modifier, à supprimer, à... C'était que ça tous les jours, en fait, puis à la fin, c'était de plus en plus dans le détail, en fait, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas que le mien, quoi, on faisait ça ensemble, il y avait le passage à lui, il y avait le passage de Tania aussi. Enfin, tu vois, c'était un peu collégial. Et du coup, il y avait Shirley aussi qui était là. Donc non, très cool. Franchement, une belle expérience. Mmh. Et finalement, je suis content que l'exposition de ce passage, elle a été un peu moindre, tu vois. Parce que, en vrai, c'est un peu caché dans Netflix, tu vois. Mmh. Et finalement, ça m'arrange un peu parce que je suis content d'avoir un truc sur Netflix, j'y suis. Mais comme c'est pas mon meilleur truc, je suis content que ce soit un peu caché, tu vois. Okay. Je dis pas que j'en suis pas fier, hein. Je dis juste que c'est pas ça que j'ai envie de montrer.
Tu veux que j'arrête d'en parler pour pas...
Non, pas du tout, non. J'ai pas honte. Hein. Non.
Mais j'ai entendu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient été écoutés en Allemagne, au Brésil.
Ouais, ça, c'était fou, ça, ouais.
Avec les sous-titres et tout ouais. Ça. Bah, comme ouais. Moi, j'ai été regarder tous les pays.
C'est ça.
Et
il y a des gens d'autres pays qui t'ont...
Que je me rappelle, parce que j'ai regardé c'était quand c'est sorti, hein, donc ça fait déjà un moment. Bah, le meilleur passage, je te l'ai dit, c'est
Adibe
de très loin.
La folie.
En Angleterre, il y en avait plusieurs, mais j'ai pas les noms. Il y avait quelqu'un qui avait un sketch sur le Monopoly qui était assez ouf. Il y a aux Pays-Bas, il y en avait un que j'avais vraiment bien aimé aussi, mais c'est un peu flou dans ma tête.
Je n'ai pas regardé.
Mais j'ai clairement regardé tous les pays. En plus, Pays-Bas, c'était chouette de pouvoir avoir des passages en
Pays-Bas, c'était en flamand.
Ouais.
Ouais. En néerlandais, ouais.
En néerlandais, du coup, c'était cool d'écouter du stand-up en néerlandais. Qui est pas le truc qui a le plus. Enfin, après, c'est peut-être moi qui connais pas là où il faut aller chercher. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais alors, ton passage. Donc là, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous sautez 2-3 minutes dans le podcast. Je vous en voudrais pas. Mais moi, j'ai noté parce que je l'ai regardé ici récemment ton passage pour préparer l'épisode. Le sketch sur le camp des migrants. Mmh. J'adore ce sketch. Je crois que c'est ma vanne préférée de toi. Depuis le début où tu sais, tu cries avec les gestes. Et ça, je l'ai replacé dans une conversation où on parlait de ça. Et j'ai, tu sais, quand tu dis « Ah, mais c'est comme dans le sketch. »
J'adore ce passage. Plaisir.
C'est vraiment mon passage préféré. Enfin, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. C'est le genre de passage où tu dois faire pause, rire et reprendre, ce qui est quand même
c'est gentil.
Un point positif. Et il y a une idée que j'adore, c'est « Je lui ai pas dit non parce que je suis pas gay, mais parce qu'il me plaisait pas. » J'adore cet angle. Je trouve ça génial. Enfin, très authentique, très vrai.
C'est Roman qui a une manière extraordinaire sur ça. Il parle justement de ça. Il parle des gays et il dit... Moi, je sais pas. Hein. Il dit... Je dis pas que je vais jamais essayer. C'est juste que pour l'instant, personne n'a trouvé les mots. Ah là là, qu'est-ce qu'il est con. Ouais. Qu'est-ce qu'il est marrant, Roman, putain. Incroyable.
Et puis, merci d'avoir bossé sur le passage d'Adib, qui est vraiment un chef-d'œuvre.
La folie. Hein.
Je le redis encore une fois, mais c'est le genre de sketch où je vais chercher des épices au magasin et je ris devant le rayon comme un débile. Et c'est impressionnant comment le nombre de stand-uppers avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, mais ce passage dans les humoristes du monde, c'est un chef-d'œuvre. Donc, Adib, si tu écoutes, merci.
Il n'y a rien à dire. Adib, c'est tout.
Après, en 2020, comme tous les artistes, tu dois interrompre la tournée avec ton nouveau spectacle, donc 21e seconde dont on a parlé au début de l'épisode.
Ouais.
T'avais déjà fait une vingtaine de dates, ce qui se passait bien, avec 100% de remplissage en tournée. Comment t'as vécu cette interruption, à part en te lançant à corps perdu dans les échecs? Le jeu, hein, je précise.
Oh, c'était cool, hein. Franchement, le confinement, c'était archi cool. Surtout le premier, tu sais, c'était... Je sais pas, il y avait une excitation, tout le monde était un peu excité. Il se passe quoi? Non, c'était cool, on faisait des barbecues. On a pas du tout respecté le confinement, sachez-le. Non, en vrai, on l'a respecté, mais enfin, moi, j'avais toujours des potes à la maison, quoi, tu vois. On faisait des barbecues, on était cool, quoi. Je passais beaucoup, beaucoup de temps avec ma fille aussi, j'ai profité. Pareil avec mes neveux, mes nièces, il y avait tout le temps du monde chez moi. Tout le temps du monde. Pendant les mois de confinement, il y avait tout le temps des gens. Mes neveux venaient passer des un mois à la maison. Chez moi, c'est le paradis pour les enfants. T'as des jeux dans tous les sens, t'as trampoline, balançoire, en bas, t'as une salle de gaming, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, les petits kiffs. Et non, c'était trop cool. Franchement, le confinement, je l'ai hyper bien vécu. Et le. Puis, je crois que ça a fait du bien de couper un peu, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être un peu trop d'ailleurs, parfois.
Oui, j'ai vu que ton record de plateaux sur une même journée, c'est 14 plateaux sur le même jour.
Ça, ouais. Ouais.
Qui est. 14 pour moi, c'est 5 mois de stage.
J'avais commencé, je crois, à 13h, 14h.
Ok, donc ça a fait du bien un peu de.
Ouais, de couper, ouais. Parce que je pense que si on me l'avait pas imposé, j'aurais jamais coupé. Donc là, finalement, ça m'a fait du bien, j'ai rien foutu, c'était trop bien.
Et comment s'est passée la reprise? Comment t'as vécu cette reprise?
La première reprise, elle a été difficile. Pas parce que c'était difficile, mais parce que déjà, il y avait des jauges. Donc ça, c'était hyper chiant. Tu te retrouves dans des grosses salles avec 40 personnes dedans, c'est ridicule. Et aussi parce qu'on a été coupé très vite en fait. Je crois qu'ils avaient rouvert en l'été, et ils ont refermé fin novembre. Mm-hmm. Moi, le spectacle, je l'ai repris en octobre, je crois. Donc tu vois, j'ai joué même pas un mois et demi, même pas. Ouais, franchement, c'était horrible. Autant le premier confinement d'arrêter, c'était très cool. Mais une deuxième fois de nous faire reprendre et re-arrêter, là par contre, c'était dur. Là, c'était dur. Enfin, dur, toute proportion gardée, hein, ça va. Hein. Mm-hmm. On n'est pas parti en dépression, mais je veux dire, c'était chiant quoi. Et après, la vraie reprise, une fois que ça. Alors là, par contre, là, c'est. Ah, ça fait du bien. Puis là, récemment, quand les gens ont pu retirer le masque, oh là là, quel bonheur de voir leur vieille gueule là, c'est trop bien. Ah non, mais là, c'est trop bien de voir les gens.
Et maintenant que t'as repris, est-ce que t'as repris pareil ou t'as un peu quand même calmé le jeu? Tu t'es rendu compte qu'il fallait
non,
pas.
Non, je joue moins. Ouais,
tu joues moins.
Ouais, je joue moins. Avant, je jouais 4 fois par soir, c'était ma moyenne quoi, tu vois. Et là, non, ça, je joue une fois, deux fois, mais ça suffit. Peut-être que quand je reprendrai la phase d'écriture dure. Où je repartirai de zéro, j'aurais besoin de refaire ces 3-4 fois par soir, mais pour l'instant, je suis très bien comme ça. Parce que j'ai pas grand chose à tester, donc il n'y a pas besoin quoi.
Mais alors, à côté du stand-up, t'as aussi des envies de cinéma, d'écrire des scénarios et de jouer. T'as même croisé un producteur qui s'appelle Malik, un feu rouge.
Ah ouais.
Qui t'a proposé un rôle et de jouer et d'écrire sur un court-métrage.
D'ailleurs, Malik, si t'écoutes le podcast, j'ai changé de numéro, j'ai plus ton numéro. Je l'ai recherché il y a pas longtemps, je le retrouve pas. Faut que j'essaie de le retrouver.
Je pense que tu surévalues la portée de mon podcast.
Attends, j'essaie de la retrouver sur Insta. Bref, c'est pas la conversation. Ouais, ça c'est un truc que j'ai de plus en plus envie. Avant, j'y pensais pas trop. Et là, plus ça va, plus c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Donc, même sur scène, je prends de plus en plus de plaisir à jouer. Là, maintenant, je joue beaucoup sur scène. Avant, c'était très rectiligne, pas beaucoup de nuances. Et là, je joue vraiment de plus en plus. Là, je m'éclate vraiment à jouer. Et c'est un truc que je me régale à faire, donc j'ai envie.
Est-ce qu'il y a des projets que je n'aurais pas mentionné, que j'ai oublié?
Oui, mais on peut pas tout dire. Bah déjà, la captation du spectacle qui va arriver très prochainement. Ensuite, il y a un projet, je t'ai dit juste avec qui, mais je peux pas te dire quoi. Tu vas kiffer. Hein. Un projet avec Farid, Panayotis Pasco, moi, Roman Fraissinet et Adi Balkhalidé. C'est un truc qu'on bosse depuis pas mal de temps, qui devrait voir le jour prochainement, donc on est content. Enfin, oui, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est quand même très bien. Bref, je t'en dis pas plus, mais ça devrait voir le jour très bientôt.
Je pense que le seul moyen que tu me fasses plus plaisir qu'en annonçant ça, c'est de rajouter Roman Fraissinet et Régis qui sera là. C'est le seul moyen que ça m'excite encore un petit peu plus, cette information. Ça, c'est du teasing en tout cas.
Ouais, je peux pas te dire ce que c'est, je peux pas te dire quand, mais prochainement, et ça va être. Je sais pas si ça va être cool, ce qu'on a pas encore fait, mais on a bon espoir.
Alors, j'ai des questions un peu plus générales, niveau stand-up en général. Mmh. Qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour?
Ce que j'aime le plus, c'est la première fois qu'une blague marche. Ça, c'est le moment préféré. Ce que j'aime le moins, c'est faire semblant. Ça, j'aime pas. C'est genre aller à des soirées de machin, de trucs, j'y vais jamais parce que j'ai pas envie. Enfin, en fait c'est pas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, mais je veux dire quelqu'un que je connais pas, faire semblant que c'est super et c'est génial et je t'aime trop, ça j'arrive pas du tout en fait. C'est juste qu'on se connaît pas en fait, tu vois. Moi j'ai du mal avec les gens que je connais pas à être directement câlin quoi, tu vois. Mmh. On se connaît pas, donc merci, bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais, enfin l'histoire quoi, tu vois. J'arrive pas à être faussement proche, tu vois ce que je veux dire.
Mmh.
Les frérots à tout va, ça n'en pas du tout. Si je t'appelle frérot, c'est vraiment que
t'es
on a partagé des choses, quoi, tu vois.
Ouais, c'est un truc que j'ai plus de mal aussi. Il y a des gens qui ont un don pour avoir des relations avec les gens.
Ouais, ouais.
Et directement, ça part. Moi, si déjà j'ai osé aller parler à la personne, je lui fais « Wow, bravo Régis. T'as eu une bonne soirée, franchement, tu peux être fier de toi. »
T'as été remercié le gars qui organisait la scène. Pas mal, quoi.
T'as dit 8 mots, Régis, bravo. Bravo.
Mais c'est... Le pire, c'est que c'est un peu vrai. On continue. On va vraiment faire une thérapie après. Je vais te payer, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière?
Que ça continue, c'est tout. J'ai pas d'envie, bah, je veux juste que ça continue. Et que ça continue, c'est très large, hein. C'est-à-dire que ça continue devant 100, devant 2000, devant 40 000, je m'en fous, je veux juste que ça continue. Je veux juste continuer à faire ça, peu importe comment.
Mais y a pas un truc genre je veux être au cinéma, je veux être...
Ah oui, alors ça, oui, mais alors ça c'est pas dans ma carrière stand-up. Parce que
oui,
carrière, oui, oui,
carrière,
oui. Ah ouais, faire du cinéma, ça c'est un truc, franchement, ça devient un truc que j'ai très envie de faire.
Et plutôt comédie ou même pas spécialement?
Non, peu importe, je m'en fous, j'ai envie de jouer, okay. Peu importe.
Et est-ce que pour cette envie, tu vas genre faire des castings ou ce genre de choses ou...
Non, j'ai même pas d'agent, faudrait que j'ai un agent un jour, s'il y a des gens qui nous écoutent. Ouais, non, faut que, ouais.
Bah, s'il y a déjà des gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Jason, je pense que ça lui fera plaisir, surtout si c'est pour un grand film au cinéma.
Allez-y.
Alors, ben, je vais passer maintenant à ce que j'appelle l'interview name-dropping. Donc, dans l'interview name-dropping, si t'as écouté le podcast, je pense que tu sais, je vais te demander de me donner un humoriste, mais à chaque fois, une seule personne pour chaque catégorie. Tu dois te limiter à une seule personne, qu'elle soit française, québécoise, américaine, peu importe, mais une seule personne.
Ok.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
Adib.
Eh bien, Adib disait toi. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Farid.
L'humoriste qui pour toi écrit le mieux?
Roman.
L'humoriste qui joue le mieux?
Waouh. Qui joue le mieux? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est grave si je sais pas. Alban. Bah oui, je suis con.
Alban Ivanov?
Ouais.
Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Soit quelqu'un que tu connaissais pas et que t'as découvert tout d'un coup, ou quelqu'un que tu connaissais mais qui a progressé de fou tout d'un coup.
Warren Nichen. Mais c'est pas qu'il a progressé parce qu'il a toujours été fort, mais il m'impressionne quoi. Il est vraiment archi impressionnant.
Et maintenant on va passer à la dernière partie du name dropping où je te demande de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire. Vas-y. En termes de rire.
Vas-y. Ok.
Bien sûr j'ai pris des gens que tu aimes bien, sinon c'est pas facile. Tu peux justifier ou non.
Ok.
Mais vraiment, le but, c'est de voir qu'est-ce qui, toi, te touche un peu plus et te fait plus rire. Mais ça ne veut pas dire que tu préfères, okay. Et ça n'a rien à voir avec la personne en soi.
Oui, oui, t'inquiète.
Mais non, je le précise, parce que c'est que des gens qui ont un talent fou. D'ailleurs, je prends toujours des gens que j'adore, qui sont incroyables. Donc, d'ailleurs, tous les artistes que je cite dans les name dropping, allez tous les voir, ils sont incroyables. Premier choix entre Dave Chappelle et Louis C.K.
Lui qui me fait le plus rire?
Oui.
Mon cœur, il va dire Dave Chappelle.
Bah, t'as été le voir récemment au Trianon?
Évidemment.
J'en profite, quelqu'un qui a été le voir, comment c'était?
C'est fou, en fait, c'est sa prestance. C'est même pas tant les vannes, on s'en fout de ça, c'était lui quoi. Lui sur scène, c'est assez impressionnant à voir.
C'est la seule personne que je connais, enfin que j'ai vu, qui est plus détendue que toi.
Ah non, mais lui c'est de la folie. Ouais, vraiment, c'est archi impressionnant.
Entre John Sulo et Seb Melia.
Ah, John Sulo, hein. Bah, je suis tous les jours avec lui. Ah, Jim Soulet, c'est mon gars de ouf. Hein. Et il progresse aussi énormément. Bah, c'est dur, hein, parce qu'après, Seb Melia, il est tellement fort.
Choix suivant, entre Alban Ivanov et Jamel Debbouze.
Lui qui me fait le plus rire, Alban.
Entre Fadili Camara et Hakim Djemili.
Waouh. Moi, je dirais Hakim quand même. Désolé, Fadili.
Entre Lenny Munga et Shirley Soignon.
C'est dur, hein. Ouais, je vais dire Shirley quand même. Shirley, ces derniers temps, c'est quelque chose, hein.
Je vais la voir vendredi.
Munga, ces derniers temps, elle m'a giflé.
Ouais.
Ah ouais.
Ah ben, j'ai hâte de la voir. Mais d'ailleurs, c'est une petite exclue pour ceux qui ont écouté jusque-là. Le prochain invité après Jason, bah, c'est Shirley.
Ah, trop cool. Ah ouais. Ah, Shirley, c'est du vrai stand-up, hein. Non, la vraie pureté de la chose, quoi. Trop forte.
Choix suivant, entre Paul de Chavannes et Panayotis Pasco.
Ouah, ça se fait pas. Alors là.
Donc je précise que Paul de Chavannes écrit avec toi et tu écris pour avec Panayotis, vous c'est deux amis.
Et c'est même pas pour faire de la. Mais là honnêtement, j'ai aucune idée duquel des deux me fait le plus rire. Ah vraiment, c'est même pas pour faire genre, c'est pas de la politique là. Parce que les deux, c'est trop. Ils sont trop brillants, les deux. Non. Non, je réponds pas. Je refuse de répondre.
Ça marche. Mais du coup, tu vas adorer le dernier choix.
Vas-y.
Entre Fari et Adi Balkalidé.
Waouh. C'est honteux de faire ça aux gens. Qui me fait le plus rire? Je dirais Farib. Tu t'attendais pas à ça, hein? Impossible de répondre. Et c'est, encore une fois, hein, c'est pas, je suis pas en train de cacher la vérité. Hein. J'ai aucune idée duquel des deux me fait le plus rire. Aucune idée. Parce que Farid, je peux le voir 40 000 fois, je suis toujours mort de rire. Et Adib, pareil.
Okay.
On a le droit dire les deux.
De toute façon, le principe du name dropping, c'est plus de voir un peu ce qui te touche. Et je choisis.
Ouais, c'est de mettre dans la merde, c'est ça ton.
C'est ça.
Non, les deux, ils sont aussi fous l'un que l'autre.
Mais je serais incapable de choisir.
Impossible.
Je crois que le seul truc qui est le petit plus d'Adib, c'est l'accent québécois qui...
Ouais, c'est rigolo, quoi.
C'est ça. Ça rajoute encore un truc, tu vois, mais incroyable, les deux.
Non.
Allez les suivre tous les deux, c'est impressionnant. Et la toute dernière question, celle que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode?
Allez, John Solo.
Ça marche.
Enfin, pour vous, parce que moi, je l'entends tous les jours, mais... Mais ouais, faut que tout le monde voit à quel point c'est quelqu'un de bien, quoi.
Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup.
Bah merci à toi, hein.
D'avoir répondu à toutes mes questions.
Avec pris grand plaisir.
Super cool. Et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté.
Merci les auditeurs. C'est quoi, c'est... Ils ont pas un petit nom?
Bah pas
la
encore.
La Régisphère. Et...
Les
Régisphère, pardon.
La Régisphère.
La Régisphère, non. Salut la Régisphère.
Ah, c'est sympa. Ah ben voilà, oh ben bonjour à toute la Régisphère. Ah, si vous avez écouté le podcast jusque-là, envoyez juste Régisphère, comme ça on sait que vous avez écouté jusque-là. Vous pouvez envoyer sur Instagram
Régisphère. Et sur Régisphère.com.
Voilà.
Le site qu'on vient de créer.
Je vais devoir rajouter ça. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.